Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, très bon réveil à tous, courage, courage, il fait chaud et ça va continuer, Géraldine nous le dira dans un instant, plus de 400 records de température battus hier en France et on pourrait avoir encore plus chaud aujourd'hui. Face à cette situation, les Français se ruent sur les clims, plus 60% en une semaine de demande. La climatisation, c'est la meilleure invention du 20e siècle, voilà le parti pris de notre voix de droite, Louis Sarkozy, il nous le dira à 7h50, c'est devenu politique, la clim, est-ce qu'il faut culpabiliser de demander un devis pour une clim, de l'installer? Est-ce que la clim, ça doit rester un luxe ou est-ce qu'au contraire, il faut démocratiser la clim? Est-ce que vous y êtes passé? Est-ce que vous y réfléchissez? Vous nous appelez, j'attends vos témoignages, vos réactions au 3216 ou sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis nous reviendrons ce matin sur ces deux adolescents tués ce week-end par d'autres mineurs. Le premier à Rennes pour une histoire de vol de matériel de pêche. Le second pour un refus d'ajout sur TikTok. Comment expliquer cette ultra-violence des jeunes? À 7h40, nous serons avec un pédopsychiatre et on aura tous les chiffres. Et puis à 8h30, ne le manquez pas, le ministre de l'économie répondra à mes questions. Roland Lescure, c'est aujourd'hui que la plateforme pour obtenir l'aide des grands rouleurs ouvre enfin. Tout à l'heure, à 8h, vous pourrez commencer à demander vos aides gros rouleurs. Toutes les explications. Et Roland Lescure qui, la semaine dernière, disait encore que l'économie française résistait. Est-ce que franchement, il peut continuer à le dire? On y revient ce matin. On vous offre aussi des cadeaux sur la Coupe du Monde. Restez bien attentifs. Il y a encore des télés, des maillots et même un chèque de 10 000 euros à gagner. Ça peut tomber à tout moment. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine, c'est ces records de chaleur qui continuent de tomber.
Et encore une fois, bah oui, on a déjà eu 3 jours d'affilée, le jour le plus chaud jamais vu en mai. Ça pourrait encore être le cas aujourd'hui. 13 départements en vigilance orange canicule dans l'ouest, de la Bretagne jusqu'au département de la Manche, en descendant jusqu'à la Gironde. 29 autres départements en vigilance jaune. On sait qu'on a encore des records, ils sont tombés cette nuit. Cet après-midi, on pourrait atteindre localement les 38-39 degrés, notamment dans le nord de la Charente-Maritime. On attend 36 à Bordeaux, à Lyon, 35 à Rennes, Nantes, Bourges, Limoges, Perpignan, 34 à Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse, 31 à Marseille, 30 à Lille ou à Brest. Et il va falloir attendre dimanche pour qu'on respire enfin un petit peu mieux.
Merci d'avoir choisi RMC. On est ensemble jusqu'à 9h. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les ventes de climatiseurs et de ventilateurs, oui, qui explosent donc en ce moment avec la chaleur. On a recueilli les chiffres à RMC. Vous allez voir que les devis sont en augmentation de 60% chez un des acteurs majeurs du secteur. Des fusillades ont fait 2 morts hier soir à Nantes et à Grenoble sur fond de narcotrafic, encore une fois dans ces deux villes. Et puis on va revenir sur la fin du premier tour à Roland-Garros avec la sensation Moïse Kouamé et la déception Loïs Boisson éliminée dès le premier tour.
Et donc, c'est la ruée sur les clims et les ventilateurs.
Oui, il faut dire qu'il fait tous les jours un petit peu plus chaud. On a encore battu ou égalé plus de 400 records de chaleur. Hier, vient nous dire Géraldine, ce sera certainement pareil aujourd'hui. Et encore, le pire est à venir dans le sud-ouest. Vous êtes le correspondant de RMC, Pierre Bourgès. Et vous nous dites que donc la filière de la climatisation croule sous les appels en ce moment.
Oui, à commencer par les fabricants de climatiseurs. En une semaine, le nombre de sollicitations reçues par Daikin et Atlantic, deux acteurs majeurs du secteur, a été quasiment multiplié par 3. Il s'agit là de demandes pour choisir le bon climatiseur, pour connaître le prix, généralement compris entre 1000 et 4000 euros, ou pour être directement mis en relation avec des installateurs, nous expliquent les fabricants. Installateurs, eux aussi, fortement sollicités. Et partout en France, comme d'habitude, dans le sud-est et le sud-ouest, et de plus en plus en Île-de-France et jusqu'au Finistère depuis le début de cette vague de chaleur, précise à RMC Engie Home Service. Aquaclim, l'un des leaders dans l'installation de climatiseurs en Bretagne, indique que le nombre d'appels reçus a été multiplié par 4 en l'espace d'une semaine, notamment venant de personnes âgées et vulnérables.
Et alors on fait encore le constat que beaucoup de bâtiments ne sont pas équipés pour faire face à ces fortes chaleurs. On en parle beaucoup avec les écoles, mais nouvel exemple, tiens, écoutez, à la gare de Nantes qui a pourtant été rénovée récemment, c'était en 2020 avec une grande mezzanine, c'est très joli, mais Amélie Courtet s'y est rendue pour RMC et immersion avec elle.
Quand on rentre dans la gare, on est légèrement rafraîchi. Hein. Là maintenant, je monte jusqu'à la mezzanine vitrée où tout le monde attend son train. Dès qu'on arrive là-haut, par contre, l'air est lourd.
Il y a notamment des ventilateurs qui brassent de l'air chaud.
40 degrés ici, 5 de plus qu'à l'extérieur.
On a les gouttes de sueur qui coulent sur nos fronts. On a très très chaud.
Bah, tu vois, je m'étais dit, on va peut-être aller au sauna aujourd'hui, mais finalement, pas la peine. On est là, dans la gare de Nantes.
Des voyageurs épuisés. Valentin est assis par terre. Il joue à cache-cache avec le soleil.
Il faut essayer de trouver des coins d'ombre, même s'il n'y a vraiment pas d'air. Ça reste invivable.
D'autres s'éventent avec une feuille, s'agglutinent comme Ninon près de gros ventilateurs.
Ça me sauve parce que sinon, je me serais liquéfié.
À ce point-là.
On sent qu'à tout moment, on peut partir dans les vapes.
Des malaises, il y en a déjà eu parmi les commerçants, mais tous ont reçu pour consigne de ne pas parler.
L'année dernière, j'avais le droit à un ventilateur de la SNCF. Cette année, ils ont refusé.
Seul Pierre, vendeur, finit par accepter.
C'est encore plus compliqué. Déjà parce que les fortes chaleurs arrivent encore plus tôt. Mais pour l'instant, je vois pas d'amélioration. Du coup, ça me fait très peur pour l'été.
La SNCF promet d'installer un film sur les vitres d'ici quelques semaines pour réduire la température.
La ville de Bordeaux, où on sera en direct tout à l'heure dans le journal à 8h, active carrément son plan d'urgence face à la chaleur, ce qui normalement arrive en plein été et pas à la fin d'un mois de mai. Il y a des maires qui décident ou qui réfléchissent comme à Tours à mettre en place eh bien, des barrières au bord des cours d'eau pour éviter les noyades mortelles avec des comportements imprudents. Il y en a encore eu une hier, un jeune de 19 ans est mort à Cergy en tentant de traverser l'Oise à la nage.
Il est 7h04 sur RMC, la soirée a encore été émaillée de fusillades mortelles à Nantes et à Grenoble.
Oui, deux fusillades qui ont fait deux morts donc dans ces deux villes où ça se répète en ce moment. Quelles sont les infos, Victor Girard?
À Grenoble, la fusillade a éclaté vers 21h30 près d'un point de deal dans le quartier Mistral au sud-ouest de la ville. Selon le Dauphiné Libéré, quatre personnes se trouvaient devant un club de foot lorsqu'elles ont été prises pour cible par des tirs. Bilan, un mort et trois blessés, dont un avec pronostic vital engagé, transporté par les secours. Leur identité est pour l'heure inconnue. Quant aux tireurs, dont on ne connaît pas le nombre, ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule, selon une source policière à RMC. Du côté de Nantes, c'est une demi-heure plus tard, vers 22h, que deux personnes à scooter ont ouvert le feu sur un individu, le touchant à la tête. La victime est morte. Selon Ouest France, elle était âgée d'un peu plus de 18 ans. Hier soir, des CRS ont été déployés dans la zone.
L'enquête a soudainement avancé hier à Rennes, où les deux adolescents de 15 et 16 ans qui étaient en garde à vue ont avoué le meurtre du jeune Théo, âgé de 11 ans, étranglé dimanche sur les bords de la Vilaine, sans doute pour une histoire futile de vol d'appât de pêche, un leurre de pêche. Les deux adolescents se seraient vengés, selon le procureur de Rennes. On va en reparler un petit peu plus tard ce matin sur RMC. Il y avait hier à Paris le tout premier procès en public dans le scandale du périscolaire. Un ancien animateur était jugé pour des agressions sexuelles sur 9 enfants et 2 collègues dans une école maternelle du 11e arrondissement de la capitale. Une peine de 3 ans de prison, dont un enferme a été requise, mais un enferme sous bracelet électronique. Constance Bostoen, vous avez suivi ce procès au service police-justice à RMC et vous nous dites que ces réquisitions déçoivent les familles des enfants.
Oui, c'est précisément cet aménagement sous bracelet électronique qui ne satisfait pas les familles des 9 enfants. Comme l'explique maître Anna Kopp, elle représente 6 d'entre elles.
Je pense que les familles avaient comme souhait que le prévenu puisse faire un passage en détention pour qu'il prenne la mesure des faits qui lui sont reprochés. Et aujourd'hui, c'est ça la déception, puisque le procureur a considéré que malgré le risque de réitération de l'infraction, le prévenu n'avait pas lieu d'être placé en détention.
Quelques heures plus tôt, les parents se sont succédés très brièvement à la barre pour raconter le calvaire vécu par leurs enfants. Le tout sous le regard d'un prévenu très détendu qui n'a montré aucun signe de remords. L'homme de 36 ans à la carrure imposante, caché derrière de grandes lunettes dorées, a expliqué ne pas se sentir concerné. Et s'il a nié tout geste sexuel, il invoque toutefois un manque de formation de la part de la ville de Paris, comme le souligne maître Epoma, son avocat.
Il arrive dans un milieu où il doit travailler. Donc il travaille, il accomplit ses missions sans comprendre que c'était interdit d'avoir un certain type de contact avec les enfants. On ne lui a jamais appris ça.
La décision est attendue le 7 juillet prochain.
Et c'est dans ce contexte que le gouvernement va dévoiler ce matin au Conseil des ministres son projet de loi sur la protection de l'enfance avec l'idée de systématiser les contrôles d'antécédents judiciaires pour tous les adultes au contact d'enfants, à la fois les professionnels et les bénévoles. Le premier tour, je vous le disais, est terminé à Roland-Garros. Il y avait 9 Français qui jouaient sur les courts hier. 3 se sont qualifiés, comme le jeune Moïse Kouamé, 17 ans, la sensation impressionnante, 3-7 face au Croate Marin Cilic. 6 autres ont été éliminés, comme Clément Tabur, qui n'a rien pu faire dans la soirée face à l'Italien Yannick Sinner, faut dire que c'est le numéro 1 mondial, ou encore Loïs Boisson, sensation de la saison dernière à Roland-Garros, mais qui là a été balayé dès son entrée par la Russe Anna Kalinskaya, Julia Taxis.
Oui, et pourtant, le public du cours Suzanne Lenglen a bien tenté de pousser Loïse Boisson. Mais les supporters ont vite senti la Française résignée.
On l'a vu se retourner vers son coach maintes et maintes fois, dire qu'elle n'arrivait pas, on ne sait pas trop pourquoi.
Elle est dans détresse totale, elle sent qu'elle n'arrive pas à avancer, quoi.
Au bord des larmes, en conférence de presse, la joueuse de 23 ans a confirmé ce sentiment d'impuissance.
J'étais pas prête, j'avais juste pas de bonnes sensations tennistiques. Je sais que j'arrive à Roland avec très très peu de rythme à cause de toutes ces blessures, donc juste, il est là le regret.
Éloignée des terrains pendant 6 mois, revenue seulement fin avril, Loïse Boisson n'avait tout simplement pas les armes. Caroline Garcia, ex numéro 4 mondiale, elle ne s'inquiète pas pour la suite.
C'est vrai que c'était un tournoi qui est difficile pour elle par rapport au fait qu'elle n'a pas pu se préparer comme elle voulait. Je suis sûre qu'elle va pouvoir avec son équipe prendre beaucoup d'expérience de sa nouvelle position par rapport au public français et apprendre, et elle est jeune, elle vient juste d'arriver.
Si après cette défaite, Loïse Boisson va sortir du top 100, la Française est d'ores et déjà assurée de participer au prochain Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon.
Il y aura 3 Français sur les cours aujourd'hui à Roland-Garros pour le début du deuxième tour et on vivra ça dès les premiers coups de raquette, comme on dit, à 11h sur RMC. Je vous donne aussi le résultat de la soirée en football. Le match nul 0-0 entre Saint-Etienne et Nice dans le match aller du barrage Ligue 1, Ligue 2. Match retour vendredi à Nice. Et quand on dit match nul, c'était vraiment nul. Il n'y a eu aucun tir cadré.
Vraiment nul.
Ouais, ouais.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 sur RMC et on parle chaleur, évidemment. On parle chaleur parce que ce sont plus de 400 records qui ont été battus hier et que ça va continuer et qu'il y a des bouilloires thermiques. Bonjour Maïder Olivier, vous représentez la Fondation pour le logement et vous avez décidé d'aller en justice pour dénoncer l'inaction de l'État face au risque climatique. Pour vous, ça n'est pas une question de confort, c'est une question de santé publique. Vous avez relevé jusqu'à 46 degrés dans un appartement à Paris sous les toits, des canicules de plus en plus fréquentes désormais. Il faut s'attaquer à cette urgence sanitaire. Voilà votre parti pris, vous le défendez dans un instant et je vous attends, vous qui nous écoutez au 3216, appelez-nous. Vous souffrez face à ces chaleurs? Est-ce que vous êtes dans une bouilloire thermique, impossible à rafraîchir, à refroidir chez vous? Est-ce que vous plaidez finalement pour la clim pour tous? Vous nous appelez au 3216, on vous attend.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'État a attaqué pour inaction face au risque climatique. Maïder Olivier, bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer pour la Fondation sur le logement des défavorisés, l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Ce n'est pas une question de confort, c'est un enjeu sanitaire. Voilà ce que vous dites ce matin, une question de santé publique, faire face à cette chaleur extrême qui est mesurée dans un certain nombre de foyers qui n'arrivent plus à se rafraîchir. On parle désormais de bouilloire thermique. Vous attaquez carrément l'État pour urgence sanitaire?
Oui, tout à fait. On dépose aujourd'hui devant le Conseil d'État ce qu'on appelle une intervention volontaire. On saisit la justice parce qu'on considère que, au regard de différents risques climatiques, l'État ne respecte pas le droit international, le droit européen, le droit français, et ni le droit au logement d'ailleurs, et avec un certain nombre de risques. On parle des chaleurs, mais aussi les sécheresses qui viennent fissurer les maisons. Et tout ça, ça met en danger, en fait, aujourd'hui, la procrastination de l'État, elle met en danger la vie de millions de personnes en France.
Pourtant, l'État avait présenté l'an dernier, en tout cas c'est comme ça qu'il le disait, un grand plan national d'adaptation au changement climatique. C'est le gouvernement qui l'avait présenté en mars 2025, c'est pas à la hauteur?
Pas du tout, et c'est ce plan dont on demande la révision, parce que même s'il y a certaines pistes intéressantes, c'est vraiment souvent des petites mesures qui ne sont pas budgétées et qui du coup sont confrontées aux lois de finances chaque année, et donc qui perdent même le peu de moyens qui leur a été alloué. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'au regard des chiffres, des données scientifiques sur ces risques climatiques, et même au-delà des données scientifiques, les témoignages qui sont remontés des personnes, on n'est pas du tout à la hauteur.
Les témoignages que vous avez recueillis sont inouïs, c'est effectivement cette urgence extrême chaleur. On parle souvent l'hiver de ces passoires thermiques qu'on n'arrive pas à chauffer. Désormais, il faut aussi parler des bouilloires thermiques. C'est souvent d'ailleurs les mêmes, qu'on n'arrive pas à chauffer l'hiver, qu'on n'arrive pas à rafraîchir l'été. Il y a des températures qui ont été mesurées par votre fondation. Vous parlez de 46 degrés dans certains appartements qui sont sous les toits, en pleine canicule, sous le zinc de Paris. Mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de petite maison mal isolée.
Ouais, bien sûr. C'était pendant la canicule de 2022. Il y a une personne, voilà, sous les toits qui nous racontait que quand il y a eu un pic de chaleur à Paris à 41 degrés, il faisait 46 degrés chez elle. Donc, c'est même pas que le logement ne protège pas de la chaleur à l'extérieur, c'est qu'il peut même exacerber la chaleur qu'on va ressentir dans le logement. Et en fait, il n'y a pas besoin d'atteindre 46 degrés pour que ce soit dangereux pour la santé. C'est pas juste une question de confort, c'est pas subjectif. On va pas tous s'adapter. C'est vraiment, il y a l'Organisation mondiale de la santé fixe des températures au-delà desquelles c'est dangereux de vivre dans un logement. Et en fait, au-delà de 30 degrés déjà, c'est dangereux. Si on ne descend pas en dessous de 25 la nuit, le corps se fatigue et c'est tous les risques sur la santé qu'on encourt.
Et c'est très important, je trouve, effectivement, dans ce que vous dites ce matin, c'est que vous ne parlez pas d'une question de confort, c'est pas une histoire de confort. Pendant longtemps, on avait presque l'impression qu'on disait, oh, ça va, t'as qu'à ouvrir la fenêtre ou prendre sur toi. C'est une... Non, c'est pas une question de confort, c'est une question de santé. Face à ça, évidemment, et ce pic de chaleur extrêmement précoce que l'on traverse, on a ce chiffre qu'on vous présente aussi ce matin. 60% de plus de demandes de devis de clim. Et d'ailleurs, Itab est avec nous en direct, qui nous appelle de Gironde. Vous êtes installateur de clim. Bonjour Itab.
Bonjour, oui. Oui,
alors j'imagine que vous faites face à ces demandes ?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, je me sens comme un docteur, du coup.
Ouais.
On m'appelle, on veut la clim pour hier. Donc ouais, c'est vrai que là, c'est la demande, elle est doublée en ce moment. Et du coup, moi je voulais dire en fait que ça devient vital, quoi. La clim, elle devient vitale comme. On a des températures comme en Espagne ou comme en Asie, et je sais moi que quand on voyage, on voit qu'en Espagne ils ont des groupes extérieurs, enfin ils ont de la clim partout, quoi. Et je pense que ça va devenir comme ça en France, c'est-à-dire que maintenant c'est ça devient vital.
Qui vous appelle, Itab? Est-ce que désormais, parce qu'on a l'impression que la clim avant c'était un luxe et que désormais c'est juste vital?
Ah non, c'est des clients lambda. Moi, je sais que, bon, après, une question de budget, mais les gens ils craquent leur budget parce qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils veulent absolument la clim, ils la veulent rapidement. Et en fait, ils me disent, ouais, voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Donc, il y en a où c'est des gens qui ont leur femme enceinte et ça devient compliqué, ou des enfants en bas âge, ou après des personnes âgées. C'est de tout type de catégorie qui m'appelle. Avant, c'est vrai que c'était plutôt, on va dire, un confort, un luxe d'avoir la clim. Maintenant, c'est un besoin vital. Il faut la clim comme en hiver, il faut le chauffage. En été, il faudra la clim.
Merci, Itab. Je voudrais justement que Maïder Olivier puisse répondre. On n'envisage pas, évidemment, aujourd'hui, et ça n'est même plus possible, ça ne serait pas envisageable, de louer un logement sans chauffage. Est-ce qu'il faut désormais imposer que si on loue un logement, ou même qu'on est bailleur social, on ait un logement qui puisse être chauffé l'hiver et rafraîchi l'été?
En tout cas, nous, sur la climatisation, on dit que ça doit être un dernier recours. C'est-à-dire qu'on peut pas, évidemment, on comprend que les personnes aujourd'hui, face à l'absence de d'autres solutions, que les personnes demandent l'installation de clim, parce que c'est une solution immédiate, efficace. Par contre, on dit aussi que c'est une forme de maladaptation au changement climatique, parce qu'en fait, la climatisation, on rejette l'air chaud à l'extérieur, et donc ça va renforcer la chaleur ressentie pour les voisins, qui n'en ont pas forcément. Nous, à la Fondation pour Logement, on est particulièrement sensible à la situation des personnes qui sont à la rue. Donc c'est quand même assez inégalitaire encore aujourd'hui, le recours à la clim. On voit qu'en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, on n'est pas du tout
équipé de la même manière. Mais précisément, ça ne doit pas être démocratisé. Parce que alors sur la question écologique, qui a un grand débat aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici par exemple, qui est à la pointe de l'écologie, lui dit au fond, en réalité, on a beaucoup culpabilisé les gens d'avoir une clim, mais parce que c'était une époque où les clims étaient très chronophages en énergie, ce qui est beaucoup moins le cas. Et surtout, il dit aujourd'hui, on en fait beaucoup d'électricité, en particulier dans les moments de grande chaleur, parce qu'on a un surplus d'électricité, notamment dû aux panneaux solaires. Donc c'est un moment où, de toute façon, mécaniquement, en réalité, ça n'est plus forcément, en tout cas à ses yeux, un problème écologique. C'est devenu presque un problème de démocratie ou d'accès des plus modestes aussi à cela.
Et encore une fois, en fait, aujourd'hui, c'est quand même un peu un non-sens d'installer des clims dans un logement qui n'a même pas de volet, parce que c'est encore beaucoup la réalité. En fait,
la question
qu'il faudrait
aussi, c'est déjà qu'il puisse être rafraîchi.
Qu'il y ait toutes ces solutions sobres qui n'ont pas de coût aussi pour les ménages, parce qu'en fait, la climatisation, c'est quand même pas neutre en consommation d'électricité. EDF dit que c'est environ plus 15% de consommation d'électricité.
Vous imagineriez pas de dire à quelqu'un de pas mettre son chauffage l'hiver?
Oui, bien sûr que non, mais en fait, parce qu'il n'y a pas forcément... Une fois que le logement est isolé, bah oui, évidemment, on met le chauffage pour augmenter la température.
Mais le logement n'étant pas isolé, vous n'allez pas dire à quelqu'un, bon bah du coup, ne mettez pas le chauffage.
Non, bien sûr que non, et de toute façon, nous, on ne dit pas aux personnes qui ont la clim de ne pas la mettre si elles n'ont pas d'autres solutions. Par contre, ce qu'on dit, c'est que quand on est bailleur, les bailleurs sociaux, l'État doit quand même lancer des grands plans d'installation de volets. Il y a aussi des alternatives, les brasseurs d'air plafonniers, ça consomme beaucoup moins d'énergie et c'est très très efficace pour rafraîchir le logement. Et donc voilà, en fait, la clim doit être un dernier recours. On n'est pas du tout anti-clim, mais il faut vraiment que ce soit la dernière alternative.
Il faut trouver des solutions pour rafraîchir ces logements. Vous pensez effectivement à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans ces bouilloires thermiques et vous attaquez donc l'État face au Conseil d'État. Merci d'avoir défendu votre parti pris ce matin. Maïder Olivier, je rappelle que vous représentez ce matin la Fondation pour le logement des défavorisés. C'est l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Merci à vous. Et la clim, c'est devenu politique. Louis Sarkozy, d'ailleurs, la voix de droite, puisque c'est mercredi ce matin. Hier, c'était Cécile Duflot, d'ailleurs, l'ancienne ministre du Logement. Aujourd'hui, c'est Louis Sarkozy, chacun sa voix. Et Louis Sarkozy, il plaide pour la clim pour tous. Il estime même que c'est la seule solution désormais face aux canicules. Venez débattre avec lui. On vous attend au 32-16. Il est 7h21. Arthur Chevalier rentre dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
On va remonter le temps avec vous comme chaque matin et vous allez revenir sur une histoire assez étonnante qui concerne le détroit d'Ormuz.
Et oui, et cette histoire a lieu en 1515, l'année de la bataille de Marignan, mais cette date, c'est aussi un tournant de l'histoire du détroit d'Ormuz.
Vous nous le direz dans un instant. Arnaud Demange vient pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de remonter le temps. Il est 7h22. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Alors toujours de très grosses tensions autour du détroit d'Ormuz. Hier, une explosion a endommagé un pétrolier au large d'Oman. Des frappes la veille. Les Iraniens contrôlent toujours le détroit.
Oui, et le ministre des Affaires iranien s'est défendu en début de semaine d'imposer un péage dans le détroit. Alors avec beaucoup de mauvaise foi, il a affirmé qu'il s'agissait seulement de frais de navigation et des mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Ben voyons. Les déclarations qui, bien sûr, n'ont rassuré personne, hein, puisque dans les faits, il n'y a strictement aucune différence entre un péage et ses soi-disant frais de navigation.
Et ça vous rappelle une époque où le passage du détroit d'Ormuz était précisément payant.
Et oui, et ça remonte quand même, hein, puisque c'était au début du XVIe siècle. À ce moment-là, l'île d'Ormuz, qui est iranienne aujourd'hui, était un royaume, un petit royaume par la taille, mais central dans ce fameux détroit. Hein. À la même époque, en Europe, un pays est en train de devenir une superpuissance. Ce pays, c'est le Portugal. Alors, il dominait les mers, il agrandissait sans cesse son territoire. Ce qu'il voulait, c'était contrôler un maximum de voies commerciales. Et justement, un des passages les plus lucratifs à la croisée de l'Inde et de l'Asie, c'était le détroit d'Ormuz.
À ce moment-là, le Portugal va tout simplement décider de s'emparer de l'île d'Ormuz.
Eh oui, exactement. Pour ça, il envoie une énorme flotte de navires de guerre avec à sa tête un de ses plus grands capitaines. Ce capitaine, il s'appelait Alfonso de Albuquerque. La conquête commence en 1507, elle s'achève en 1515. Cette date d'ailleurs, vous la connaissez, puisque 1515, c'est l'année où le roi de France, François Ier, a remporté la bataille de Marignan, un hasard de l'histoire.
Donc 1515, c'est pas que Marignan désormais, on le saura, c'est aussi le détroit d'Ormuz, puisque c'est donc à partir de 1515 que les Portugais établissent ce péage du détroit.
C'était exactement le but de l'opération en fait. Les Portugais construisent d'ailleurs une forteresse, ils verrouillent le détroit en imposant une taxe donc pour tous les navires qui n'étaient pas portugais. Cette taxe, elle avait un nom, c'était la cartaz. Elle enrichira considérablement le Portugal et ce péage maritime va quand même durer plus d'un siècle. Hein.
J'imagine que ça ne plaisait pas à tout le monde.
Ça ne plaisait même à personne en fait, à part le portugais forcément. Hein. Et en 1622, donc un siècle plus tard, les Anglais et l'Empire perse, donc en fait les Iraniens à l'époque, décident de s'allier pour éjecter les Portugais du détroit d'Ormuz, ce qu'ils parviennent à faire. Et à partir de là, une idée va s'imposer dans le commerce international. Cette idée, c'est la liberté des mers pour favoriser les échanges. Et les Anglais vont s'appliquer tout de suite ce principe en imposant la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz.
En Iran, aujourd'hui, il reste quelque chose de cette époque.
Quelque chose de très important, Apolline, une journée de commémoration nationale pour célébrer cette victoire contre les Portugais en 1622. Elle existe depuis 2005, cette journée, ça s'appelle la Journée nationale du Golfe Persique. Inutile de vous préciser que cette année, le régime iranien l'a célébré comme il se doit. Hein. C'était le 30 avril dernier, le jour était férié et placé sous le signe du patriotisme, comme un défi lancé à la puissance américaine.
1515, Ormuz désormais, on s'en souviendra. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC,
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud, à 8h30 tout à l'heure, mon invité dans le face-à-face, ce sera le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Oui, Roland Lescure qui a deux métiers, hein, d'ailleurs, il est ministre de l'économie et également sosie officiel de Nicolas Canteloup.
Oui.
Vous pouvez l'engager pour des soirées d'entreprise, il viendra vous faire
« Oui, je suis Ségolène Royal ».
Il imite moins bien que l'original quand même. L'original à 8h50. Donc il est ministre de l'économie, mais on n'a pas d'économie. Il est ministre des Finances, mais elles sont dans le rouge. Ministre de la Souveraineté Industrielle, mais il y a les Chinois. Ministre de la Souveraineté Énergétique, mais le détroit d'Ormuz est fermé. Ministre de la Souveraineté Numérique, mais il y a Elon Musk. En gros, il a plein de portefeuilles, mais ils sont tous vides. Voilà. Eh ben, ça nous fait un point commun. Roland Lescure vient de confier à 4 économistes indépendants une mission spéciale, analyser le budget et réfléchir à des trajectoires pour redresser les finances. Et c'est vrai, c'est une bonne idée de demander à des spécialistes en économie de regarder notre économie. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc il est allé voir Emmanuel Le Chypre, il lui a dit « Vous voulez pas regarder mon budget? Parce que moi l'économie, c'est pas mon domaine à la base, hein, c'est pas mon truc. Hein. Moi mon truc c'est les imitations. Oui, je suis Ségolène Royal.
Ouais. Bah tu sais quoi? T'es aussi bon en imitation qu'en économie.
Oh, merci. C'était qui? Ça veut dire quoi alors? Tiret 3000 milliards.
C'est pas un tiret.
C'est pas un tiret, c'est un moins.
Je me suis fait un petit peu avoir par les imitations.
Dans les voix, voilà, il y a tellement de richesses. C'est le plus grand cabaret du monde ici.
C'est beau.
Vous parlerez de l'essence. Alors, oui. Moi, ça y est, j'ai fait le plein de la Twingo hier. C'est 100 balles maintenant. C'est-à-dire que mon plein vaut plus cher que ma voiture. Et alors, il y a des bonnes nouvelles pour les gros rouleurs. Les gros rouleurs.
Non, c'est pas cela.
Alors, pour obtenir les aides, c'est très simple, alors, Apolline, c'est très simple. Tout est authentique. Il faut justifier que vous parcourez 30 km par jour pour travailler ou bien 8000 km par an au volant d'un véhicule terrestre à moteur à 2, 3 ou 4 roues, motorisation thermique ou hybride non rechargeable, assuré, pas déclaré endommagé, tout en excluant évidemment les véhicules agricoles, les poids lourds, les véhicules de fonction et les véhicules de service.
Oui.
Ensuite, vous fournissez votre numéro fiscal, votre revenu fiscal de référence 2024.
Ah,
attention, il y a un piège.
Oui.
Immatriculation, carte grise, puis vos noms, prénoms, adresses, carte d'identité, un chèque de caution de 600 euros, deux garants qui gagnent 10 fois le montant d'un plein, an de fiche de paye, trois formulaires Cerfa autorisant l'État à vous prélever un rein, puis vous faites un tour sur vous-même et vous changez de partenaire, et au bout de 10 jours, vous obtenez 100 euros. Voilà. Vous avez
fait
4 jours de congé pour les avoir, mais vous les avez. Enfin, Roland Lescure vous détaillera tout ça de 8h30 à 16h45. Alors prévenez les GG, on va un peu déborder. Et à tout à l'heure.
Bah, le temps de remplir le certificat. Et je vous retrouve à 8h15 à Arnaud Demanche. Il est 7h28. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Géraldine vous le dira, il continue à faire très très chaud et on devrait encore battre des records aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Du matériel de pêche volé, cela peut paraître futile, mais c'est ce qui a coûté la vie à Théo, 11 ans, étranglé sur les bords de la Vilaine, dimanche à Rennes. L'impuissance des mers face à la chaleur, les baignades sauvages inquiètent encore. 2 personnes sont mortes noyées hier. Et la baisse des ventes de tabac qui s'est poursuivie en 2025 à des niveaux toujours plus bas. La tendance se confirme, les Français fument de moins en moins.
Ils sont passés aux aveux.
Les deux jeunes mineurs soupçonnés d'avoir étranglé Théo, 11 ans, retrouvé mort sur les bords de la Vilaine dimanche à Rennes, tué Pierre Bazin pour avoir volé du matériel de pêche.
Oui, c'est en tout cas ce qu'ont indiqué en garde à vue le jeune homme et la jeune femme soupçonnés du meurtre de Théo. Le mis en cause âgé de 16 ans a expliqué aux enquêteurs qu'il avait rencontré la victime la veille et qu'ils avaient décidé de pêcher ensemble le jour du drame, selon Frédéric Théillet, le procureur de la République de Rennes.
Les deux mis en cause admettent s'en être pris à Théo. Et notamment l'avoir étranglé. Puis ils ont pris la fuite en emportant le matériel de pêche et les affaires de Théo. Ils affirment s'en être pris à Théo pour se venger et pour récupérer des leurres de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros que Théo leur aurait pris.
Les affaires de la victime ainsi que le matériel de pêche ont en effet été retrouvés au domicile des deux suspects, tous deux inconnus jusque-là des services de police.
Deux fusillades hier soir à Nantes et Grenoble à quelques minutes d'intervalle. Bilan, 2 morts avec à chaque fois la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Précoce et inédite, cette vague de chaleur qui se poursuit sur le pays avec de nouveaux records attendus aujourd'hui pour un mois de mai. 400 ont été battus ou égalés hier, certains datés de la veille. 13 départements sont ce matin en vigilance orange canicule. Pour autant, le risque sanitaire est écarté, dit la ministre de la Santé, qui rappelle les bonnes pratiques, s'hydrater, éviter les efforts physiques, se rendre dans un endroit frais. Dans ce contexte, le nombre de signatures de devis pour l'installation d'une climatisation explose, en hausse de 60% la semaine dernière par rapport au début du mois de mai, nous dit Engie. On en reparle dans le journal de 8h. Se rafraîchir donc, mais pas à n'importe quel prix. Depuis samedi, on dénombre plusieurs noyades mortelles en France. 2 sur la seule journée d'hier, dans l'Oise et dans la Manche, souvent dans des zones interdites à la baignade. Difficile pour les élus de faire respecter les consignes de sécurité. Illustration à Vers-sur-Marne. Cassandre Brault, Antonin Audion.
Baignade interdite, le site n'est pas surveillé, il n'est pas aménagé.
Un panneau d'avertissement, comme on en trouve souvent le long du rivage, ici, à Vers-sur-Marne. Daniel Vatelet est le maire de la ville.
Ce que les jeunes ne comprennent pas souvent, c'est qu'il peut y avoir des courants invisibles, il peut aussi y avoir des objets dans l'eau. Il y a de la vase aussi, donc si jamais ils restent plantés dans la vase, ils ne pourront plus remonter et puis ils peuvent se noyer.
Mais juste à côté...
Vous savez que c'est interdit la baignade ?
Le maire interpelle un groupe en train de faire des plongeons dans la rivière.
Il y a un jeune comme vous qui s'est noyé, il est resté bloqué dans la vase et s'est noyé.
Donc c'est juste de se rafraîchir un petit peu.
Les cheveux trempés. Anto sort à peine de l'eau.
On est conscient qu'il y a un risque. Moi, je sais que j'ai nagé.
Un peu plus loin, des cris se font entendre. Un groupe d'une vingtaine de jeunes est réuni au bord de l'eau.
Il fait chaud, du coup, on est obligé de se baigner.
On n'a pas conscience du danger. En vrai, ça passe par-dessus la tête.
D'abord, on était à un autre lac tout à l'heure. Et la police, ils sont venus, ils nous ont dit de partir et tout. Et après, on est venus ici.
D'où le sentiment d'impuissance que Daniel Vatelet partage avec d'autres maires.
Ils savent que c'est interdit et pourtant, ils y vont quand même. Donc là, je pense qu'avec la meilleure volonté du monde, on est un peu dépourvu.
Le maire d'une commune voisine a même décidé d'installer des barbelés le long du rivage pour dissuader les baignades sauvages.
Les espoirs de paix menacés au Moyen-Orient, frappé hier, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir rompu le cessez-le-feu. Un regain de tension qui fait grimper les cours du pétrole ce matin. Pas de baisse en vue sur les prix à la pompe en France, mais une aide bienvenue, 100 euros pour les grands rouleurs. Il faut la réclamer via une plateforme. Elle ouvre dans une demi-heure. Maintenant, êtes-vous concerné par ce dispositif ? Victor Joannin vous répond.
Cette aide est réservée aux travailleurs, salariés ou indépendants. Pour en bénéficier, il faut donc avoir perçu un salaire ou des bénéfices commerciaux ou agricoles, et c'est l'année 2024 qui est prise en compte. Munissez-vous de votre avis d'imposition de l'année dernière qui vous permettra d'indiquer votre revenu fiscal de référence par part. Si ce revenu est inférieur à 16 880 euros, vous êtes éligible. Cela correspond à 1508 euros net par mois pour une personne seule. Il faut aussi déclarer sur l'honneur que vous utilisez votre voiture, thermique ou hybride, pour aller au travail, avec au minimum 30 km aller-retour ou 8000 km annuels. L'aide sera versée dans les 10 jours directement sur votre compte bancaire et gare aux tricheurs, l'administration pourra réaliser des contrôles a posteriori.
Les Français fument-ils moins ? La réponse est oui, nous dit une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée ce matin à son niveau le plus faible depuis 2000. Cela se traduit aussi par une baisse des ventes de tabac en recul de 8% l'an dernier par rapport à 2024. Les fumeurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des dispositifs d'aide à l'arrêt et ça semble plutôt bien fonctionner, Lucas Lauvergne.
Pendant plus de 30 ans, les pauses cigarettes ont rythmé le quotidien d'Olivier.
3 paquets par jour. Moi, j'adorais ça.
Mais un jour, c'est le déclic. Son médecin le sermonne. Si vous continuez, vous allez finir par mourir, lui dit-il.
Cigarette égale cercueil. Je peux bien voir mes enfants grandir. Donc, j'ai dit, bon, on va faire quelque chose.
Charles Hugo a essayé plusieurs fois d'arrêter la cigarette, mais ce qui lui a permis de stopper définitivement, c'est le mois sans tabac.
C'est pas mal comme période pour s'y mettre. Il y a une espèce d'engouement collectif qui donne plus de force.
Pour pallier le manque, certains se mettent à la cigarette électronique. D'autres se tournent vers des traitements de substitution de nicotine comme le patch ou les gommes par voie orale. Entre 2024 et 2025, les ventes de ces traitements ont augmenté de 7%. Lucas en a fait l'expérience.
C'est super les gommes, ouais. Il y a de la nicotine qui se diffuse dans le corps petit à petit. Ça a été utile pour des journées de travail en tout cas, ouais.
Des traitements que le professeur Bertrand Dautzenberg, tabacologue, conseille à tous ses patients.
La cigarette donne envie de fumer la suivante. Les substituts nicotiniques font qu'il n'y a plus d'augmentation des besoins de nicotine et les besoins de nicotine baissent en gros en 100 jours ou 1% par jour.
Selon lui, le mieux reste de se faire accompagner par un professionnel de santé pour déterminer au mieux la dose de nicotine à prendre au quotidien.
Une éclaircie au sombre tableau tricolore à Roland Garros. Moïse Kouamé, vous ne le connaissez peut-être pas, mais à 17 ans, le Français a battu Marin Cilic hier au premier tour. C'est terminé pour Loïs Boisson. Pour la première fois depuis 1980, deux Françaises seulement sont qualifiées pour le second tour qui débute aujourd'hui. Trois Français à suivre sur les cours, sur RMC, sur la radio digitale 100% terre battue. Au bout de l'ennui, Saint-Étienne et Nice se quittent sur un match nul et vierge en barrage aller d'accession à la Ligue 1. C'est donc vendredi que les deux équipes joueront leur place dans l'élite. Et puis un mot des Spurs de Victor Wembanyama battu cette nuit. Ça fait 3-2 pour Oklahoma City en finale NBA de Conférence Ouest, avec un match peut-être décisif demain soir. Et puis les courses du côté de Strasbourg, rendez-vous à 13h55. Le 4, Shriara est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6, Concerto, le 4 et le 6.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h38 et c'est l'heure de jouer. Ça y est, c'est le moment de jouer et de vous inscrire pour tenter d'emporter jusqu'à 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde. Un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel, une boîte Lego du trophée. Et ça, honnêtement, c'est la petite cerise sur le gâteau. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez avec un cadeau incroyable. C'est le moment de vous inscrire. Vous envoyez liste au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Il fait chaud. Et comment réussir à se rafraîchir? Didier nous appelle de Loire. Vous êtes à Châteauneuf. Bonjour Didier.
Oui, bonjour. En fait, non, je ne suis pas trop à Châteauneuf, je suis au travail. Là, je suis sur Givors.
Ah, vous êtes passé sur Givors. Vous êtes au boulot à 7h38. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Oui, je suis agent de maintenance. Je suis dans un collège de la métropole de Lyon.
Il fait chaud.
Mais on a eu la chance d'avoir une cour qui a été végétalisée par la métropole de Lyon.
Donc la cour a été végétalisée, ça change tout?
Oui. Ah bah carrément, hein. Carrément.
Et vous avez couplé ça, je crois, avec des panneaux solaires?
J'ai un plancher chauffant qui fonctionnait au fioul. La maison, elle a 25 ans.
Ouais.
Il a fallu qu'on change de méthode de chauffage. Donc, on est passé sur une pompe à chaleur réversible.
Ouais.
Donc, ce qui nous permet de rafraîchir le plancher. Ça ne fait pas comme la clim. Ça ne fait pas, je crois, comme la clim, mais ça rafraîchit le plancher.
Donc, vous avez ça vous chauffe l'hiver et ça vous rafraîchit l'été.
Voilà. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi consommer de l'électricité alors qu'il y a du soleil? Du coup, moi, j'ai fait mon installation photovoltaïque. J'en ai eu pour à peu près 5 000 euros il y a 3-4 ans, même 4 ou 5 ans même. Et donc, c'est moi qui l'ai installé. J'ai pris un opérateur qui s'appelle Urban Solar sur Lyon, qui a une batterie virtuelle. Donc, en fait, quand on branche la pompe à chaleur et qu'il y a du soleil, donc ça ne nous coûte rien du tout. Si nos panneaux solaires produit plus d'énergie qu'on en consomme, ça repart sur le réseau. Notre opérateur, il a une batterie virtuelle, il nous cagnotte nos kilowatts en plus. Et la nuit, quand on ne produit pas d'électricité, on récupère nos kilowatts qu'on a envoyés sur le réseau la journée.
Donc c'est totalement gagnant, c'est-à-dire que 5 ans après,
Oui, c'est gagnant-gagnant.
Donc non seulement la pompe à chaleur vous permet de rafraîchir, mais en plus, elle utilise votre propre électricité.
C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir témoigné. Excellent témoignage, Didier, de pouvoir partager ce matin avec tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent à trouver des solutions pour rafraîchir leur maison. Merci Didier. Il est 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 sur RMC et RMC Story. 11 ans tué pour un leurre de pêche. Deux drames ce week-end. Théo, 11 ans, je le disais, étranglé à Rennes, puis noyé pour des leurres de pêche. Et puis cet ado de 17 ans, poignardé dans un camping de Seine-et-Marne pour un refus d'ajout sur TikTok. Bonjour Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes l'auteur de « Les mots de vos ados », c'est aux éditions Solar. Vous rencontrez tous les jours dans votre cabinet des jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que pour une telle futilité, ce soit la mort ?
Alors, l'explication est sans doute plurielle. Il faudrait connaître ces adolescents parce qu'encore une fois, chaque cas est particulier, mais on assiste en tout cas à une montée de la violence chez une minorité des adolescents. Encore une fois, la majorité vont bien, régulent bien leurs émotions, mais une certaine minorité de plus en plus violente, de plus en plus impulsive, réagit de plus en plus dans l'immédiateté et supporte de moins en moins les frustrations. Donc ça peut aller effectivement jusqu'au passage à l'acte mortel.
Au passage à l'acte mortel, dont on sent qu'il n'est pas forcément prévu, ce jeune, prenons cette affaire, on n'en connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais il avait 11 ans, semble-t-il, il avait rencontré ses bourreaux la veille, ils ont prévu une partie de pêche, ils partent avec des leurres, les deux autres jeunes se connaissent, 15 ans et 17 ans, une fille et un garçon, et en quelques instants, c'est le drame, la bascule, semble-t-il, pour une histoire futile, de leurre que l'un aurait cru prêter et que l'autre aurait dit voler. Vous le disiez, il n'y a pas forcément plus de jeunes violents, mais ceux qui le sont davantage. La question de la conscience de la mort que l'on donne, comment est-ce que vous l'analysez, vous ?
Il est certain qu'à cet âge-là, l'anticipation est moindre que chez des criminels adultes, par exemple. Et la conséquence des actes est moindre aussi. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas forcément la gravité des actes qu'on va commettre. On réagit beaucoup à ces âges-là dans l'impulsivité. Évidemment, il y a des facteurs favorisants. Le fait d'avoir grandi dans une famille où tout le monde est très impulsif et violent, par exemple. Le fait d'avoir certains troubles psychiatriques qui font qu'on a du mal à se réguler. Mais aussi une éducation où on nous met jamais de limites et on a un sentiment de toute puissance sans conséquence de nos actes.
C'est une question de rapport à l'éducation et à l'autorité ?
Il y a sans doute plusieurs facteurs. Oui, bien sûr que les facteurs éducatifs jouent un rôle. La violence sociétale dont les ados sont les premières victimes et qui sont contaminés par ça joue un autre rôle, les troubles psychiatriques. Et puis, évidemment, on se pose des questions sur l'impact des contenus violents auxquels les adolescents n'ont jamais été autant exposés. Pornographie violente, images violentes, il n'y a pas eu vraiment d'études qui permettent de
l'affirmer. Une sorte de banalisation du mal ?
Tout à fait. Une banalisation de la violence, ça c'est certain. Et sur les réseaux, elle apparaît également. Alors, on ne voit pas toujours de la violence sur les réseaux, mais quand on s'intéresse à la violence et qu'on va sur les réseaux, les logiciels vont nous soumettre que de la violence sur les réseaux.
On parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'égalité garçon-fille, mais là, il y a une inégalité des... très importante, puisque 93%, et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93% des auteurs, notamment d'homicides ou de tentatives d'homicide, sont des garçons.
Ben, il serait bien qu'on se penche un peu sur cette question, parce que ça remet en question l'éducation des garçons. On n'éduque pas les garçons et les filles de la même manière, manifestement. Encore aujourd'hui, la preuve, les chiffres sont là. Et vous avez dans les prisons, ce sont essentiellement des garçons. Ça ne veut pas dire que la délinquance des filles n'augmente pas, elle augmente. Il se trouve qu'elle est beaucoup plus verbale que physique. Donc ce simple fait-là devrait nous pencher sur comment est-ce qu'on éduque nos garçons, est-ce qu'on leur apprend bien à contrôler leur frustration, et puis quelle image leur donne-t-on de la virilité ? Qu'est-ce qu'être un homme ? Est-ce que c'est être un homme qui est violent, que de ne pas respecter les règles ?
On a parlé régulièrement aussi de la question des réseaux sociaux, et j'étais très frappée par une analyse que l'on peut quasiment faire chacun. Quand un ado aujourd'hui s'inscrit, par exemple sur TikTok, en quelques clics dans les tout premiers contenus qui lui sont proposés. Si c'est un garçon, il va avoir du contenu viriliste. Si c'est une fille, ce sera plutôt justement anti-garçon. Ce retour d'une sorte de virilisme exacerbé, de masculinisme, comme on dit, c'est aussi un problème aujourd'hui ?
Oui, ça l'est, bien sûr. Ça fait partie des facteurs favorisants sur la façon dont on se perçoit, la façon dont l'adolescent pense qu'il doit se contenir et se comporter, ça a un impact tout ça. Donc oui, le contenu des réseaux sociaux aussi peut être préjudiciable.
Stéphane Clerget, je le rappelle, vous êtes pédopsychiatre et vous avez écrit Les mots de vos ados. Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce que ceux qui nous écoutent doivent être attentifs à quelques signaux, à quelques signes ? Comment anticiper pour justement mieux éduquer ?
Alors beaucoup de parents, ils sont sensibles et perçoivent dès la petite enfance des comportements violents, des intolérances à la frustration et viennent demander de l'aide par rapport à ça. Parce que les choses doivent se prendre en charge très précocement. Et à l'adolescence aussi, il y a des adolescents qui commencent à être violents avec leurs petits frères et sœurs, violents aussi avec leurs parents, et ces parents doivent pouvoir demander de l'aide. Parce que seul avec un ado ou deux ados, c'est difficile.
On ne doit pas accepter que ces colères, que ces axes de violence, accès de violence se développent.
Oui, on doit prendre ça comme un symptôme dangereux et on doit tout faire pour aider l'adolescent à réguler, à exprimer verbalement les choses, parce qu'on assiste à une baisse aussi du niveau de langage des ados. Depuis une quarantaine d'années, ils expriment moins leurs émotions verbalement, ce qui favoriserait aussi sans doute les passages à l'acte physique.
Merci. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin. C'était Stéphane Clerget. Je rappelle le titre de votre livre, Les mots de vos ados, c'est aux éditions Solar. Merci à vous. Il est 7h50, c'est mercredi, la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut de la clim pour tous.
Le fait que la mairie d'arrondissement tourne à 19 degrés pendant que l'école des enfants y fait 38, Apolline, c'est à la limite de l'acceptable. Il faut climatiser partout et il faut climatiser tout de suite.
C'est politique, vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus. Victor, c'est l'événement hier sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot. RMC a trouvé sa nouvelle voix.
Eh oui, la finale des nouvelles voix de l'After, des semaines de compétition à travers les plus beaux stades de France. Et hier soir, les ultimes finalistes se sont mesurés au boss de fin, Daniel Riolo. Puis le gagnant a été annoncé par Gilbert Bribois.
La nouvelle voix de l'After 2026 est Adem.
Adem qui rejoint donc l'équipe de l'After.
Présentez-vous.
Eh bien, on va le présenter. Adem Jouadi, 23 ans, venu de Villiers-le-Bel, étudiant pour devenir prof de sport. Mais avant ça, il a tenté de devenir gardien de but. 1m76, trop petit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, il est resté coach des gardiens à côté. Il est aussi arbitre en amateur. Mais la vraie question quand on intègre l'After, c'est qui supporte-t-il ? Évidemment, le Paris Saint-Germain. Alors ça veut dire quand même que dans la même semaine, Adem peut aussi devenir champion d'Europe pour la deuxième fois ce week-end. Bienvenue à RMC, Adem.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est la voix de droite ce matin, comme tous les mercredis. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis Sarkozy, ce matin, 13 départements de l'ouest de la France sont en vigilance orange canicule. Et face à ces épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, Marine Le Pen demande la mise en place d'un grand plan de climatisation. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'elle a raison, Apolline. Il faut climatiser partout, tout le temps et le plus vite possible. Et surtout, arrêter d'écouter ceux qui transforment un problème de santé publique en débat moral. Lee Kuan Yew, l'homme qui a sorti Singapour de la pauvreté, disait « La climatisation est l'invention la plus importante du XXe siècle. Pas la pénicilline, pas l'informatique. La climatisation, parce qu'elle permet à des sociétés entières de vivre, de travailler, de produire dans des climats qui, sans elle, la condamneraient à la léthargie ou la mort. »
C'est très fort, peut-être vous exagérez un peu. La clim, c'est pas vital, si ?
Vous pensez que c'est pas vital ? Allons deux secondes sur les chiffres. La canicule de 2003 en France. 14 800 morts. L'été 2022, près de 7 000 morts liés à la chaleur, c'est les chiffres de Santé publique France. Ce sont des personnes âgées, des nourrissons, des malades chroniques, des gens qui n'avaient pas les moyens, eux, de partir en bord de mer. La canicule en France, c'est une machine, Apolline, à tuer les pauvres. Et pendant qu'on enterre nos morts chaque été, les bureaucrates parisiens nous expliquent que climatiser, ce ne serait pas à la hauteur de l'enjeu climatique. On nous rebat les oreilles avec le réchauffement climatique tous les jours à longueur de journée et on nous interdit la meilleure façon de vivre avec. On préfère laisser mourir des vieux dans des EHPAD plutôt que de toucher au dogme. Malheureusement, c'est ça la France de 2026.
Alors la climatisation, ça pollue, ça aggrave le réchauffement, voilà l'un des arguments.
C'est un des arguments et je ne l'ignore pas. Mais j'écoute ce que disent les vrais spécialistes, pas les militants. Lundi matin, ici même sur RMC d'ailleurs, François Guémen, le spécialiste du climat, le rappelait, il faut intégrer la climatisation dès la conception du bâtiment. Avec les nouveaux systèmes, ventilation double flux, récupération de chaleur, fluide frigorigène, nouvelle génération, on évite l'effet d'îlot urbain. Et puis, pardonnez-moi, soyons sérieux, deux secondes. L'électricité française est l'une des plus décarbonées d'Europe grâce au nucléaire, autour de 55 grammes de CO2 par kilowattheure, contre près de 350 en Allemagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une climatisation à Lyon pollue 6 fois moins qu'à Berlin. 6 fois moins. La pollution de la climatisation n'est tout simplement pas un enjeu sérieux. C'est une lubie dogmatique de médiévistes nostalgiques, pas un argument.
Est-ce que ça coûte cher ? Tout le monde n'a pas les moyens.
Justement, Apolline, c'est exactement le sujet. Aujourd'hui, qui a la clim en France ? Les magnifiques studios d'RMC, les bureaux du CAC 40, les hôtels 5 étoiles, les ministères. Qui n'en a pas ? Les écoles, les EHPAD, les HLM. La clim en France, c'est devenu un marqueur de classe. Et les comparaisons internationales ici sont accablante. Aux États-Unis, près de 90% des foyers sont équipés. Au Japon, à Tokyo, où il fait 38 degrés en été, avec 80% d'humidité, le taux est à peu près équivalent. À Singapour, la clim est universelle. Et en France, un foyer sur quatre. Aucun autre pays développé ne fait ça. Aucun. On est les seuls à vivre au Moyen-Âge.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de refroidir un bâtiment ?
Alors, Apolline, je vais vous donner un exemple très parlant. Vous en avez parlé d'ailleurs ce matin. C'est la gare de Nantes. Eh bien, la gare de Nantes, c'est un cas d'école. Un cas d'école de la bêtise et du gaspillage. Des architectes payés bien sûr par le contribuable qui ont décidé qu'on n'avait pas besoin de climatisation parce que le physique du bâtiment ferait le travail. Le résultat, la fournaise, plus de 40 degrés. La SNCF, comme vous pouvez vous en souvenir, a dû fermer une partie de la gare pendant un épisode de canicule l'été dernier. Voilà ce que ça donne l'idéologie. La bêtise, la bureaucratie, le dogmatisme. Arrêtons de construire des saunas publics, je vous en supplie. Et regardons ce que fait Nice. 1361 classes équipées, salles de classe équipées d'ici la rentrée 2027. Concrètement, méthodiquement, sans brouhaha. Voilà ce qu'on attend d'une collectivité publique.
Bon, vous proposez quoi concrètement?
Alors, très simple. 1. Plan national d'équipement et des bâtiments publics sensibles. Écoles et pas de crèche, on en a parlé. Hôpitaux, services d'urgence, 5 ans, calendrier ferme, financement par redéploiement, pas de hausse d'impôts. Quand on trouve 10 milliards, pardonnez-moi, pour renflouer la SNCF, on en trouve pour ne pas laisser mourir des enfants et des vieux. Parce que si mon fils demain, Pauline, tombe dans les pommes pendant une canicule dans sa salle de classe, pendant que la mairie d'arrondissement tourne à 18 degrés, je pense que je pourrais pas le supporter. Et 2, intégration de la climatisation dans tout permis de construire neuf. Plus jamais un lycée flambant neuf, transformé en hammam 3 mois par an.
Pour vous, c'est une question de civilisation?
Mais c'est un terrible symptôme de la France actuelle. On aurait le droit de se réchauffer l'hiver, mais pas de se refroidir l'été, en plein réchauffement climatique. Mais quel est le sens? Quelqu'un peut m'expliquer le sens? C'est arriéré, bureaucratique, dogmatique, bête, myope. Et malheureusement, ça a des conséquences létales. Il n'en empêche, la climatisation, c'est la civilisation.
Louis Sarkozy ce matin, il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et la météo, Géraldine nous le dira justement, cette chaleur, elle va se poursuivre encore aujourd'hui.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h passé de 1 minute, merci d'avoir choisi RMC, on est ensemble jusqu'à 9h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un premier plan d'urgence est déclenché face à la chaleur. C'est à Bordeaux, nous sommes en direct dès le début de ce journal. Le pic de chaleur, vous verrez, n'a toujours pas été atteint dans le sud-ouest de la France. Les fusillades se répètent à Nantes et à Grenoble en ce moment. Encore 2 morts hier soir sur fond de narcotrafic dans ces deux villes. Et on va prendre des nouvelles du PSG. On est à 3 jours seulement de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal.
Il fait chaud, très chaud, mais le pire est encore à venir.
Oui, il faisait déjà 24 degrés tout à l'heure à 7h du matin à Nice et on attend jusqu'à 39 degrés, donc vient nous dire Géraldine cet après-midi à La Rochelle. Pour la 4e journée d'affilée, en fait, on va encore battre des records de température. Pierre Bourgès, on vous retrouve, vous êtes en direct de Bordeaux ce matin pour RMC, où la ville de Bordeaux a donc déjà déclenché son plan d'urgence.
Oui, une mesure que l'on a plutôt l'habitude de voir au mois d'août, mais compte tenu de cette vague de chaleur inédite, la ville a mobilisé ses agents pour aller distribuer des packs d'eau aux personnes qui n'en ont pas. Des appels sont aussi passés aux 3500 bordelais figurant dans le registre des personnes vulnérables pour vérifier régulièrement qu'elles n'ont besoin de rien. Et alors, ce matin, je suis sorti avec mon thermomètre. Je vous emmène au marché des Capucins. C'est le grand marché de Bordeaux où je mesure déjà près de 25 degrés. Juste à côté de moi, Souliman prépare sa vitrine de viande. Derrière le stand, il me confie qu'il fait déjà très chaud.
Là déjà j'ai chaud, hein. J'ai les frigos de la vitrine que je viens de rallumer qui me soufflent l'air chaud en dessous, comme ils doivent refroidir la vitrine. Même mon frigo il galère un peu, il n'arrive pas à descendre à 2-3, il est bloqué à 5-6 à cause de la chaleur, donc ouais c'est galère, mais t'as pas le choix.
Voilà, ça il faut ajouter les allers-retours au camion, la manutention des produits, la préparation des viandes, comme chez Manu ce boucher, deux allées plus loin, est en train de couper ses morceaux, le front déjà dégoulinant, il essaie de s'adapter tant bien que mal à ces températures.
Bon, là, c'est un peu trop quand même. Hein. Il fait très chaud. On boit beaucoup. Après, on se met souvent au frigo pour se rafraîchir un petit peu. Voilà, tout simplement. On fait comme on peut.
Et voilà, on fait comme on peut. On n'a pas le choix, me disent les producteurs ici. Il va falloir continuer à faire comme on peut. Les températures devraient continuer d'augmenter. Selon Météo France, la température pourrait atteindre 37 degrés demain à Bordeaux.
On l'entend avec vous, Pierre Bourgès, ce matin en direct de Bordeaux. Vous avez d'ailleurs recueilli, hein, Pierre, tout un tas de chiffres sur les ventes de climatiseurs qui explosent en ce moment. Plus 60% du nombre de devis pour en installer chez Engie, un des acteurs du secteur. Plus 30 à 40% d'installations, hein, carrément ces derniers jours, selon la Fédération du bâtiment. Bref, le secteur croule sous la demande en ce moment, ici à Nantes. Écoutez avec Rachel Sadodine pour RMC.
Son t-shirt trempé de sueur, Marvin, installateur de climatisation, s'active à grands coups de scie et de perceuse.
Nous, on va commencer à faire le passage de tuyauterie.
Là, vous diriez qu'il fait quelle température à l'étage?
33, 34 là. Les gens ont compris qu'il fait vite chaud maintenant et que c'est compliqué de réguler la température. Et il y a quand même pas mal de personnes qui appellent un peu en panique, parce que des chambres qui sont sous les toits, donc des températures qui montent super vite. et c'est impossible de dormir, impossible de faire quoi que ce soit, parce que dormir sous 30 degrés, c'est juste pas possible.
Et pourtant, la maison où il travaille a été construite il y a seulement 5 ans. Impossible alors d'imaginer que les températures montraient si vite dans la région. Résultat, dans les bureaux d'Aéry, entreprise d'installation de climatisation, le gérant Enguerrand Vala croule sous les demandes.
La boîte mail est pleine, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Et le planning de ses 14 employés est déjà bien rempli.
Juin, c'est fichu. Juillet, ça va être la même chose. Il nous reste quelques trous, mais là, ça va vraiment être compliqué.
Qu'est-ce que vous conseillez, du coup, aux clients?
Dès qu'on peut anticiper, c'est pas plus mal. Les gens ont chaud. On va pas pouvoir leur fournir de système de climatisation avant la rentrée, mais au moins, ils seront équipés pour l'été prochain.
Face à cette recrudescence de demandes, ils prévoient déjà de recruter de nouveaux techniciens d'ici la rentrée.
Et alors, il y a des maires qui décident ou qui réfléchissent, comme à Tours, pas en ce moment, à installer des barrières près des cours d'eau, là où des baigneurs imprudents se jettent à l'eau avec la chaleur. Ça a encore tourné au drame hier à Cergy, où un jeune de 19 ans est mort en nageant dans l'Oise, dans un endroit interdit à la baignade et donc évidemment pas surveillé. Le narcotrafic continue de tuer. Voilà ce que dit la maire de Nantes au lendemain d'une nouvelle fusillade mortelle dans sa ville. La troisième en seulement un mois, cette fois dans le quartier de la Halvex. C'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a été tué de deux balles dans la tête. Et une autre fusillade mortelle a fait un mort et trois blessés dans la soirée à Grenoble. Pierre Bazin du service police-justice à RMC en direct ce matin. Ça s'est passé près d'un point de deal dans le quartier du Mistral.
Oui, il est environ 21h30 hier lorsqu'une voiture se présente devant un petit groupe de personnes installées face au local d'un club de foot du quartier Mistral. À bord, l'un des passagers ouvre le feu et touche quatre personnes. L'une d'elles est tuée sur le coup, une autre est transportée dans un état grave. Pour William Maury, délégué Alliance Police, beaucoup d'éléments laissent à penser qu'il s'agit d'un crime sur fond de trafic de stupéfiants.
Au vu du quartier, au vu de la manière d'opérer et au vu des personnes ciblées, on est certainement sur un règlement de compte ou sur un coup de pression sur la cité Mistral aujourd'hui, parce que c'est une cité à Grenoble qui est connue, reconnue comme un haut lieu du trafic de stupéfiants. Une des personnes ciblées serait de la famille très très proche de narcobandits qui ont habité cette cité-là. Là, c'est toute la France qui est touchée, de Grenoble à Marseille, de Marseille à Nantes. Il n'y a plus une ville aujourd'hui qui échappe à ça.
Sur les réseaux sociaux, une vidéo de revendication filmée dans une voiture montrant un homme qui ouvre le feu à plusieurs reprises devant des immeubles circule depuis hier. À cette heure, elle est en cours d'authentification par les enquêteurs.
C'est le 7 juillet qu'on connaîtra le jugement au procès de l'ancien animateur périscolaire qui était jugé hier à Paris pour des agressions sexuelles sur 9 enfants et 2 collègues dans une école maternelle du 11e arrondissement. Une peine de 3 ans de prison dont un enferme, mais sous bracelet électronique a été requise lors de ce procès qui était le premier à se dérouler en public de ce scandale du périscolaire à Paris. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que le gouvernement va présenter ce matin en Conseil des ministres son projet de loi sur la protection de l'enfance. Sonia Gobry, du service politique à RMC, le Premier ministre Sébastien Lecornu dit que trop de parents, d'éducateurs ou d'élus alertent depuis trop longtemps. Sous-entendu, il faut changer de braquet en la matière.
Oui, le texte a été renforcé à la lumière du scandale dans le périscolaire parisien. Le gouvernement veut systématiser les contrôles d'antécédents judiciaires pour tous les adultes au contact d'enfants, tous professionnels et bénévoles dans les clubs sportifs, les écoles, les crèches ou encore dans les foyers. Les parents violents sont aussi dans le viseur de ce texte avec la création d'une ordonnance de sûreté. Elle permettra au procureur de prendre une mesure d'éloignement dans des délais très rapides sans attendre une mise en examen. Concernant l'aide sociale à l'enfance, le gouvernement veut privilégier les dans l'entourage familial, grands-parents, oncles, tantes, plutôt qu'en foyer. Et quand le retour de l'enfant n'est plus possible chez les parents, l'exécutif veut accélérer la procédure d'adoption.
Tiens, je vous signale que depuis quelques minutes, vous pouvez faire votre demande d'indemnité gros rouleur, comme on l'appelle, de 100 euros qui a été mise en place par le gouvernement face à la flambée des prix des carburants. Ça se passe sur le site des impôts si vous faites partie des 3 millions de Français qui sont éligibles. Comme promis, des nouvelles du Paris Saint-Germain ce matin. Sachez que Dembélé et Hakimi s'entraînent normalement à 3 jours maintenant de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Ce sera samedi à Budapest. Finale que les Parisiens vont jouer avec leur maillot bleu et rouge, le maillot domicile.
Il y a les uns.
On l'a appris dans la soirée. Diane Carlotti, vous êtes rendue donc à la boutique du Paris Saint-Germain où les supporters viennent s'équiper et même faire floquer leur maillot.
Il y a les incontournables.
Dembélé.
Vara.
Ousmane Dembélé.
Mais pas seulement.
J'ai floqué Safonov.
Victor espère se démarquer des autres supporters.
Désiré Doué et Dembélé, ils sont trop populaires. Dembélé, il y a trop de maillots. Au moins, il y a pas trop de doublons.
Sous l'ère Enrique, où l'équipe est au service du collectif, plus question d'idolâtrer un joueur. Et ça se ressent sur la vente des maillots. Emmanuel Rognon, responsable des achats du PSG.
On est sur quelque chose de beaucoup plus régulier, en fait, en termes de vente. Et beaucoup plus large en termes de nombre de joueurs vendus. Il y a un véritable engouement, quelque que soit le poste des joueurs. Voilà, ils ont chacun leur personnalité, chacun leur moment. Pour nous, c'est l'idéal.
À chacun son flocage, donc, pour soutenir les joueurs au fil de la saison et des performances, Robin a choisi le numéro 14 de Désiré Doué.
Ça fait plaisir. On peut voir des Désiré Doué, des Guevara, des Mayulu, des Pacho, alors qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus d'Mbappé et d'Ibrahimovic.
Depuis 2018, le PSG vend chaque saison plus d'un million de maillots, un chiffre qui pourrait gonfler encore cette année si les Parisiens remportent la Ligue des Champions.
Et puis c'est le début du deuxième tour à Roland-Garros aujourd'hui avec trois Français sur les courts. Duel tricolore entre Hugo Humbert et Quentin Alice. On en aura au moins un au troisième tour. Et ce sera pas facile pour Valentin Royer face à Novak Djokovic. Les premiers coups de raquette à 11h, on fit ça sur RMC et notre radio digitale RMC 100% terre battue.
C'était le journal de Quentin Vinet. C'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
L'encadrement des loyers, c'est un dispositif qui va prendre fin sans doute en novembre et le bilan est franchement mitigé.
Alors l'encadrement des loyers, il est aujourd'hui en vigueur dans plus de 70 villes, dont les plus grandes, hein, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux. La fin de cette expérience est programmée pour le 25 novembre 2026 et son avenir dépendra notamment du bilan qu'on peut en tirer, bilan qu'esquisse l'Institut des politiques publiques dans un rapport qui vient d'être remis au ministre du Logement. Et ce rapport, effectivement, il est mitigé. Alors d'abord, est-ce que le dispositif a vraiment permis de limiter la hausse des loyers ? Les experts nous disent oui, un peu. 500 euros d'économie par an en province, 800 à Paris en moyenne. Ça fait entre 2 et 4% des loyers les premières années. Donc oui, petit effet sur la baisse des loyers. Sauf que ce dispositif a en partie raté sa cible, puisqu'il a certes profité à des ménages modestes, notamment en Seine-Saint-Denis, mais il a aussi beaucoup profité aux ménages aisés déjà installés. Et puis, en ces temps de disette budgétaire, c'est un dispositif qui a généré des pertes de recettes fiscales pour l'État.
Donc il y a la question du prix des loyers, mais il y a aussi la question de l'effet sur les offres de loyers.
Ben oui, la question c'était, est-ce que finalement, si on encadre les loyers, il y aura toujours des Français qui voudront investir dans la pierre pour louer, et en gros...
Est-ce qu'il y aura toujours des logements à louer, quoi ?
Exactement. Et ben là, les auteurs évoquent des effets négatifs à long terme sur l'offre et la qualité des logements locatifs. Plusieurs villes ont vu diminuer le nombre d'annonces disponibles. Les propriétaires investissent moins dans l'entretien. La rotation des logements ralentit, ce qui pénalise en priorité les ménages les plus modestes et les nouveaux entrants sur le marché. Il n'y a que Paris qui a enregistré une progression des offres de logements, mais ça c'est en raison des dynamiques particulières liées à la période post-Covid. Hein. Beaucoup de foyers ont décidé de quitter Paris.
Beaucoup de familles ont quitté.
Voilà, ce qui a remis sur le marché pas mal de logements. Donc, finalement, il s'est passé
à peu près ce qu'on avait. En tout cas, ça n'a pas eu l'effet...
Il s'est passé avant. Petit effet sur les loyers et puis effet négatif sur l'offre de logement.
Et puis les chiffres du jour, comme tous les jours ?
Alors, le gazole, on est à 2,12 euros. La baisse amorcée depuis le 20 mai marque quand même une petite pause.
Ça stagne.
Sur le samplon 95, ça stagne aussi, mais là, dans l'autre sens, sur des plafonds historiques. Le pétrole, 98 dollars le baril. On reste quand même sous les 100 dollars depuis ce week-end. Et puis, pareil pour le gaz, hein, 47 euros le mégawattheure. On est stable depuis ce week-end autour de ce qui est le chiffre de la moyenne du mois de mai.
Merci Emmanuel, 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC. Dans un instant, on va se détendre avec Arnaud Demanche. À 8h30, il y aura le face-à-face. Mon invité, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. Ça y est, depuis 12 minutes, tiens, le guichet pour la demande des aides gros rouleurs est ouvert. Est-ce que ça marche ? Combien de personnes sont vraiment éligibles ? Et puis, Roland Lescure, il continue de dire que l'économie française résiste malgré un certain nombre de signaux. Est-ce qu'il peut encore dire ça ce matin ? Je lui pose la question. Ce sera sur RMC et BFM TV à 8h30, juste après, comme tous les matins pour notre plus grand bonheur. Il y aura face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui est en direct tous les jours à 8h50 sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour Apolline Matin et bonjour l'équipe d'Apolline Matin. Tout le monde va bien ?
Oui.
Vous n'avez pas trop chaud ce matin ?
Moi aussi.
Je cuis, je fonds, il fait chaud, c'est horrible. Et comme à chaque canicule, on a les bons conseils du gouvernement. Alerte canicule, pensez à bien vous hydrater. Pour cela, buvez de l'eau. Oh bah merci du conseil, le gouvernement. Et attention, évitez également de rester sans chapeau à midi en plein soleil avec une doudoune.
pensez à éteindre le chauffage et n'écoutez pas trop de Zouk Caliente.
Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Victor, faisons l'amour ce soir.
Je peux dire non.
Tout le monde dans le noir. Il fait trop chaud.
Tu peux dire non. T'as intérêt à dire non, même. Pensez, parce qu'il fait trop chaud. Pensez à prendre bien ça, soin des personnes âgées. Mais alors, faites-le subtilement. Parce que moi, j'ai appelé à la maison. J'ai dit, allô, maman, ça va? Vous tenez le coup? Vous avez pensé à vous hydrater? Dis donc, je te remercie. On n'est pas si vieux. Et là, ça part en débat et ça n'en finit pas. Non, mais je vous demande juste si vous avez trouvé un endroit frais. Et toi, t'as trouvé un vrai travail? Ton frère, il bosse au Crédit Agricole. Bon, ils n'ont pas l'air d'être assommés par la chaleur non plus, quoi.
C'est une situation, ça, humoriste. Alors, je garde des sceaux. Gérald Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans.
Oui, comme ça, l'administration française aura enfin le temps de traiter les dossiers de 2019, voire de 2020. Et pour fêter ça, Gérald Darmanin va commander une pizza. Alors, voyons voir. Votre livreur arrivera à 20h37. Eh ben, c'est parfait. Le 28 mai. Ah merde. 2031. Ah non, ça va pas du tout. Ouvrez les frontières. On s'en sort pas. Plus d'immigration pendant 3 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Europe 1? Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'émission. 3 heures. Eh oui, 3 heures. 180 minutes, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Il n'y a plus d'immigrés. Et l'émission va durer 3 heures. Et après, alors après, demain, il y aura l'émission de demain. Ne la loupez pas, elle va durer 3 heures aussi. Et on parlera de... Pas d'immigrés, déjà. Et allez, allez, l'émission est déjà finie. C'est déjà fini. Laurence Ferrari, c'est à vous. Oh non, 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 c'est à vous. Non, non, c'est à vous. Les dames d'abord. Moi, ça m'arrange pas. Mon émission, elle dure 2 heures. Oui, bah, la mienne, elle dure 3 heures. Pareil au RN. Ils doivent paniquer. Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu. Ils ont dû avaler de travers. Tanguy et Chenu, vous voyez, c'est les deux figures les plus emblématiques sur le RN, à part Marine et Jordan. C'est un duo rigolo, quoi. C'est un peu comme une sitcom. C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy.
C'est moi le grand.
Et moi le petit.
C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy. Et nous sommes du même avis. Salut Chenu.
Salut Tanguy.
Dis donc Chenu, est-ce que t'as vu que Darmanin propose de supprimer l'immigration légale pendant 3 ans?
3 ans? Non mais alors là, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Mais on va parler de quoi aux Français? De notre programme économique?
Sinon, on pourrait leur parler de notre programme de politique internationale, il est super bien. Sinon, on pourrait parler d'écologie, on est crédible là-dessus.
Non, bah, c'est un peu chiant. Les gens qui rigolent, vraiment, c'est pas au niveau. Pas au niveau.
Vous nous refaites le petit jingle, c'est moi.
Et moi, Chenu. Ah, alors, réécoutez-le en podcast.
Oh, il est trop beau, il est trop beau.
Très dur à faire la première fois.
C'était magnifique. M6 a publié un communiqué car l'émission de Julien Courbet aurait retrouvé une trace de Xavier Dupont de Ligonnès, il serait vivant.
Oui, alors, vraiment, c'est dommage que ce soit M6 chez Julien Courbet, parce que quitte à annoncer qu'on l'a retrouvé, autant le mettre en valeur, voyez, en prime time sur TF1, il l'aurait mis dans Mask Singer, dans un costume de pamplemousse, avec des indices. Au jeu des 7 familles, je ne suis pas très très bon. J'ai 2 passions, le terrassement et le catholicisme. Et après, on aurait écouté la chanson. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour eux. Belle. Oh, mais j'ai reconnu. Oui, Chantal là-dessous, vous l'avez. Mais oui, c'est Patrick Bruel. Ah non, je me confonds. C'est l'autre psychopathe.
Ah non.
C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier, allez, enlève ton masque de pamplemousse. Et il l'enlève. Eh hey, salut Chantal. Salut, ça fait plaisir de te voir Chantal. Tu sais qu'on est un peu cousins, parce que ma famille aussi, elle est là-dessous.
Oh,
c'est formidable. Allez.
Demandez pourquoi Chantal.
À demain, pourquoi Chantal là-dessous. Eh ben voilà.
C'est exceptionnel.
Allez, à demain.
À demain. Il est 8h20 sur RMC, c'est l'heure de vous faire gagner. Et c'est Thomas qui va gagner. Bonjour Thomas.
Bonjour Apolline.
Thomas, vous avez été sélectionné, donc vous êtes, au moment où on se parle déjà, le gagnant du jour. Alors attention, je change de micro, et là c'est mon moment un peu roue de la fortune, on peut le dire Thomas.
C'est ça.
Thomas, vous avez été sélectionné, et j'ai devant moi un panneau où il reste 8 noms parmi les 26 joueurs, 8 noms. Il y a Samba, Gusto, Digne, il y a Cherki, il y a Mbappé quand même qui reste, il y a Mateta, il y a Konaté. Est-ce que vous avez choisi? Parce qu'attention, derrière chacun de ces joueurs, il y a un cadeau. Et il y a jusqu'à 10 000 euros ou une PAC Coupe du Monde. Alors, je vous écoute.
Alors,
Moi, j'ai choisi Mbappé.
Oh là 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 là, il restait, il vous attendait. Alors attendez, parce que évidemment, au moment où je vous dis ça, j'arrive pas à l'ouvrir. On y va. Alors on a choisi Mbappé, on va voir si vous porte bonheur. Oh là là, je suis en panique. C'est le pack Coupe du Monde. Bon, c'est déjà très bien.
Ah oui.
C'est le pack Coupe du Monde. Vous avez, attention, un vidéoprojecteur Samsung. Vous avez un maillot officiel de l'équipe de France. Vous avez le ballon officiel de la Coupe de France. Vous avez la boîte Lego. Alors ça, évidemment, je pense que Emmanuel Le Chypre aimerait venir le faire, le Lego, chez vous. Parce qu'il a une passion pour les Lego. Félicitations, Thomas.
Ben, merci beaucoup.
Thomas, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis chauffeur poids lourd.
Et vous êtes sur les routes, là ?
Ouais.
Bon, bah écoutez, félicitations. Gardez quand même votre calme au volant, mais on vous félicite, c'est magnifique. Vous avez gagné le pack Coupe du Monde. Félicitations. Merci. 8h22 sur RMC. Eh bien, c'est le moment de vous réinscrire parce qu'il en reste. Il reste 7 joueurs. Et derrière ces joueurs, il y a 10 000 euros cachés et les packs Coupe du Monde. Comme Thomas, vous pouvez gagner. Vous envoyez tout de suite liste au 732-16. Liste au 732-16. Bonne chance à tous. Moi, je passe sans transition à la politique. Pas sûr qu'il donne tellement de chèques de 10 000 euros à grand monde. Le ministre de l'économie est mon invité, Roland Lescure. Mais depuis 22 minutes maintenant, puisqu'il est 8h22, le guichet pour les aides gros rouleurs est ouvert. Combien de personnes sont vraiment éligibles et combien de personnes vont le demander? Et puis Roland Lescure, il continue à dire que l'économie française résiste. Les indicateurs pourtant disent plutôt le contraire. Je lui pose la question dans un instant à Roland Lescure sur les prix du carburant, sur l'inflation, sur la croissance. Réponse donc dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
24 degrés tôt ce matin à Nice. Voilà la température. Il va faire jusqu'à 39 degrés cet après-midi à La Rochelle. Pour la quatrième journée d'affilée, en fait, on va encore battre ou égaler les records de chaleur. Plus de 400 encore hier. Jusqu'à 15 degrés de plus que les normales de saison à Brest. Il y a un premier plan d'urgence face à la chaleur qui a été déclenché dans la ville de Bordeaux. Conséquence de la chaleur, c'est la ruée sur les climatiseurs et les ventilateurs. D'après des infos qu'on a recueillies à RMC, les devis pour en faire installer une clim en hausse de 60% par rapport au début du mois chez Engie, un des acteurs du secteur. Et il y a encore eu des noyades mortelles hier, au moins 2 dans la Manche et dans l'Oise, où un jeune de 19 ans est mort en se baignant dans une zone qui était interdite à la baignade et donc pas surveillée. 2 fusillades mortelles encore hier à Grenoble et à Nantes. 2 morts dans ces 2 villes. À Nantes, c'est un jeune d'une vingtaine d'années, selon le journal Ouest France, qui a été abattu de 2 balles dans la tête dans le quartier de la Halvec. C'est le 3e mort en moins d'un mois sur fond de narcotrafic qui continue de tuer, déplore la mère Johanna Roland. Et à Grenoble, le bilan est d'un mort et 3 blessés. Fusillade qui a éclaté devant le local du club de foot du quartier de Mistral, près d'un point de deal. Le résultat de la soirée en football, c'est le match nul 0-0 entre Saint-Etienne et Nice dans le match de aller du barrage entre Ligue 1 et Ligue 2, match retour vendredi à Nice. Le début aussi tient du deuxième tour à Roland-Garros. Aujourd'hui, vous le vivez sur RMC avec 3 Français sur les courts, duel tricolore entre Hugo Humbert et Quentin Alice. Ce ne sera pas facile pour Valentin Royer face à Novak Djokovic. Tous ces matchs sur notre appli, hein, digital RMC 100% en terre battue. Et puis je vous signale aussi que c'est la reprise de l'entraînement ce mercredi pour les rugbymen de Bordeaux qui ont fêté jusqu'à hier leur deuxième titre européen acquis samedi dernier. Ils ont prolongé les festivités d'une du Pila. Ils vont devoir se remettre dans le bain du top 14.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie. La semaine dernière, il disait que l'économie française résiste. Est-ce qu'il peut vraiment dire ça et sur quels critères? Je lui pose la question dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe. C'est BFM TV. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions et elles sont nombreuses ce matin parce que vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de France. Et sur tous ces points-là, il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser. L'aide gros rouleur, on y reviendra, le guichet est ouvert depuis 29 minutes maintenant.
J'ai vérifié.
Vous avez vérifié, vous nous dites dans un instant. Mais il y a quand même une phrase qui me frappe. Vous avez dit la semaine dernière, l'économie française résiste. Est-ce que vous le pensez vraiment ou est-ce que vous le dites pour qu'on vous croie ou pour qu'on se fasse plaisir ou pour qu'on panique pas?
Non, mais c'est une bonne question parce que je suis pas là ni pour faire le marchand de bonheur, donc vendre du rêve, ni pour être un prophète de malheur. Et il y en a un paquet ces temps-ci. Moi, je fonde mes analyses et du coup mes expressions publiques sur des faits. Parce que je pense que c'est mon rôle aujourd'hui de dire la vérité, qu'elle soit bonne ou pas bonne à dire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'économie française a marqué une pause au premier trimestre, croissance à zéro, avec un certain nombre de facteurs exceptionnels. Il a fait chaud aussi cet hiver, pas seulement maintenant. Donc il y a eu moins de consommation d'énergie, ça devrait rebondir un peu. On a moins exporté d'Airbus que d'habitude, ça devrait rebondir un peu. Donc on est dans une économie qui résiste, qui évidemment affronte des vents de face. Faut pas se leurrer, le pétrole qui monte, qui du coup monte à la pompe avec l'essence qui affecte le pouvoir d'achat des Français.
Oui, bien, évidemment.
Mais on est mieux protégé, moins exposé que la moyenne de nos pairs. Quand je me compare à l'Allemagne, à l'Italie et autres, on a une inflation inférieure. L'inflation, c'est 2,2% en France, c'est 3% et en Europe, c'est 3,5% en Espagne, malgré des milliards dépensés pour faire baisser le prix de l'essence à la pompe. On est juste mieux protégé et ça veut dire qu'on résiste. Donc, on va évidemment suivre les détails, l'information statistique au fur et à mesure qu'elle se rend publique, mais moi, je souhaite pas vraiment crier au loup. Aujourd'hui, on résiste. J'allais dire, c'est tant mieux.
Mais vous n'êtes pas dans le déni.
Non, mais c'est...
Parce que quand on regarde, effectivement, vous le dites, la croissance, elle est à zéro. L'inflation repart. Alors certes, vous le dites, elle n'est pas forcément encore aussi haute que nos voisins, mais quand on écoute ce que vous appelez ou traitez de prophète de malheur, comme par exemple Michel-Édouard Leclerc, lui, il regarde les prix dans les rayons et il dit on va être à 3 ou 4% en juillet.
Il fait son travail, faire baisser les prix, puisqu'il se présente souvent à raison comme... Alors là, le grand marchand du pouvoir d'achat, bah, qui fasse son travail et qui s'assure que les prix ne montent pas trop. Moi, je fais le mien.
Vous, vous faites le vôtre.
Ben, j'essaie,
vous estimez,
en tout cas, tous les jours.
Vous faites le vôtre. Il y a la question du chômage remonte. Il y a le record de défaillance d'entreprise. Tout ça, c'est pas des signaux qui vous inquiètent?
Si, et devant. Mais vraiment, j'essaie d'être factuel. Vous dites record de défaillance d'entreprise, 70 000 à la fin avril. Sur un an, on a créé 1 200 000 entreprises en France à la fin avril. On n'a jamais créé autant d'entreprises. On crée plus d'entreprises. Malheureusement, il y en a aussi plus qui défaille. Et aujourd'hui, la prévision de croissance du gouvernement, c'est 0,9%. On était à 1, on l'a revu un peu à la baisse. Le consensus, donc les économistes privés, c'est 0,8%. La Commission européenne, c'est 0,8%. Le FMI, c'est 0,7%. On est dans l'ordre de grandeur aujourd'hui de celles et ceux qui font leur travail aussi bien que possible de croissance.
Donc il y aura de la croissance. Mais on ne va pas se retrouver avec une croissance à tonne, voire une récession.
En tout cas, à ce stade, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Donc moi, je peux crier au loup, je peux appeler au malheur, je peux préparer la France à toutes les plaies du monde, ou fonder mon analyse et du coup mon expression publique sur des faits. Aujourd'hui, moi, je suis là pour dire la vérité, pas pour prévoir ni le meilleur ni le pire.
Alors, vous parliez à l'instant, je vous interroge sur Michel-Édouard Leclerc. Honnêtement, votre réaction, on sent que vous vous dites, bon, chacun son job, quoi.
Mais un peu, oui, parce que je pense que face à un choc, c'est un choc qui nous affecte, qui vient de l'extérieur. On n'est pas producteur de pétrole, on n'est pas exportateur, on est importateur. J'espère qu'on est capable de se serrer les coudes plutôt que de chercher des coupables. On a souvent tendance à faire ça. Et deux, que chacun, à son niveau, contribue à ce qu'on limite le choc.
Mais quand il dit 4% d'inflation en juillet, vous dites, c'est qu'il est en train de préparer de pouvoir gonfler ses marges?
Non, moi je vais vous dire une chose. Je préfère le Michel-Édouard Leclerc qui, hier, annonce 10 000 bornes électriques dans ses supermarchés qui vont permettre d'aider les Françaises et les Français à passer à l'électrique que le Michel-Édouard Leclerc qui fait le statisticien économiste. Il y a beaucoup d'économistes en France. Emmanuel Chypre en est un, il est très talentueux. Voilà, chacun
son job. Vous préférez écouter Emmanuel Chypre que Michel-Édouard Leclerc.
Je préfère quand il plante des bornes de recharge plutôt que quand il
prend. Roland Lescure, il y en a un autre qui a annoncé qu'il allait aider les Français, c'est Total, puisque on l'apprend à l'instant. Total va donc poursuivre son plafonnement des prix à la pompe pour le mois de juin. Merci.
Ben, en tout cas, là aussi, je pense qu'il contribue. Je pense que chacun, face à cette crise, on doit se demander qu'est-ce que je peux faire pour aider. Il est indéniable que Total va gagner beaucoup d'argent. Cette crise, ils produisent du pétrole. Ils payent des impôts au Nigeria, aux États-Unis, au Mexique et ailleurs. Ils raffinent du pétrole en France. Là aussi, ils vont gagner plus d'argent que d'habitude. Eh ben, qu'il redonne une partie de cet argent via de la distribution, via un plafonnement des marges. J'allais dire, oui, enfin, c'est bienvenu, en tout cas. Je suis
vous avez même
pas
envie de dire merci, quoi. Vous trouvez que c'est normal,
en fait. Non, c'est bienvenu. Moi, je considère qu'ils font leur part du boulot. Ensuite, le débat de la fiscalité va évidemment se poser. On le posera dans le cadre du budget. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aussi dans le cadre de cet entretien. Mais en attendant, le fait qu'on ait une entreprise qui a plutôt tendance à bénéficier de cette crise, qui redonne une partie de ses profits aux Françaises et aux Français, c'est bienvenu.
Est-ce que vous pourriez demander à Total fromage et dessert? C'est-à-dire à la fois plafonner les prix à la pompe, comme ils le font, et en effet d'avoir une sorte de contribution exceptionnelle parce qu'il va falloir trouver des milliards supplémentaires et qu'ils ont fait des profits supplémentaires.
Alors on l'a fait en 2022. Après, là encore, je veux pas être un marchand de bonheur. C'est pas ça qui va remplir les caisses. Ça peut éventuellement, sera l'objet du débat parlementaire, faire l'objet d'un débat parlementaire.
Vous, à titre personnel, vous n'y êtes pas opposé, on l'entend ce matin.
Je ne suis pas opposé, mais attention, le Premier ministre a été très clair, on ne sortira pas du déficit public par la hausse des impôts. Et donc nous souhaitons déposer un budget dans lequel il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Oui, alors, ensuite, attendez,
Moi, je me demande toujours si le diable ne se niche pas dans les détails, dans les petites astérix ou dans les mots qui ne sont pas prononcés. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Vous dites, on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts. Moi, je vous demande si la phrase s'arrête à pas de hausse d'impôts, point, ou si c'est pas de hausse d'impôts pour les particuliers.
Non, dans le budget.
C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir des hausses d'impôts pour les entreprises?
Le diable, si je peux dire, il se loge. Ils vont pas aimer que je dise ça comme ça, mais je vais le dire quand même. Le diable, il se loge au Parlement. C'est-à-dire que nous, on va déposer un budget dans lequel il n'y aura pas de hausse d'impôts, particulier entreprise. Ensuite, le débat parlementaire aura lieu. Et il faudra, parce que ça, j'en suis convaincu, s'assurer qu'en 2027, on réduise le déficit public.
En fait, parce que le deuxième astérix, c'est on déposera un budget dans lequel il n'y a pas de hausse d'impôts. Sauf que vous savez bien que dans le cadre actuel de l'Assemblée nationale, le budget tel que vous le déposerez ne sera pas le même que
le budget tel
qu'il sera adopté. C'est jamais le cas, mais j'ai envie de dire encore moins cette fois-ci.
Donc
vous pourrez dire, on n'avait pas mis de hausse d'impôts.
Moi, je suis pas là pour me laver les mains. Moi, je suis là pour dire...
Il y a un peu de ça.
Non, on entre en mêlée, si je puis dire, avec une mise de jeu qui est celle à laquelle on croit. Et donc, un déficit qui sera en réduction, je l'espère.
Mais vous savez aussi qu'il y en a besoin. Vous savez qu'il va falloir.
Non mais voyez, je comprends pourquoi vous dites ça parce qu'en général, fait 40 ans qu'on a du mal à y échapper. Mais c'est pas une fatalité la hausse d'impôts. En revanche, ce qui est clair, c'est que pour y échapper, donc pour l'éviter, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et je vois bien déjà dans le débat parlementaire, les sénateurs, on a des élections sénatoriales en septembre, qui nous disent on touche pas aux collectivités locales. Un certain nombre de défenseurs du modèle social à la française qui malheureusement visent plutôt in fine à l'enterrer qu'à le sauver, qui disent faut pas toucher aux dépenses de santé. Tout le monde qui se jette sur l'État en disant l'État doit faire des économies. L'État est aujourd'hui celui qui fait le plus d'efforts depuis 10 ans.
Alors je vais vous poser la question différemment. Roland Lescure, vous opposerez-vous à une surtaxation de Total?
Non, ce débat aura lieu, on verra d'ici là.
Et vous ne vous y opposerez pas.
D'ici là, on aura une estimation de l'impact de cette crise sur les revenus des entreprises, et notamment de Total, qui aura publié des résultats. Et donc ce débat aura lieu, moi je ne m'y opposerai pas. Mais à ce stade, penser que c'est la formule magique pour sortir de l'ornière fiscale dans laquelle la France est, c'est se mettre le doigt dans l'œil.
Et encore une question, Roland Lescure, sur ce budget, avant qu'on passe justement aux demandes d'aide et au prix de l'essence. Le montant de l'effort supplémentaire qu'il va falloir faire, est-ce que vous avez un ordre d'idée?
Non, on va faire ça en deux temps. D'abord, d'ici la fin du mois de juin, on mènera, et c'est le Premier ministre qui le présidera, ce qu'on appelle un comité d'alerte des finances publiques, qui évaluera la situation aussi précisément que possible pour 2026. On commence par exécuter 2026 de manière correcte. Et sur cette base-là, on sera capable de travailler cet été pour proposer un budget pour 2027. On était à 5,1 en 2025, on a fait mieux qu'attendu, on s'attendait à 5,7. On prévoit 5%, du déficit public. On prévoit 5% en 2026. Ça va pas être facile, du fait de la crise, des ventes face, etc.
Vous prévoyez, vous espérez, vous priez?
Les deux, les trois. Moi, je suis laïque, pas baptisé, donc plutôt les deux premiers. J'espère et je prévois. Mais il va falloir faire des efforts pour y arriver.
Mais vous 5%. Anticipez déjà que ce sera peut-être plus.
Ce sera. Non, on va tout faire pour y arriver parce que c'est essentiel, mais ça prendra sans doute des efforts supplémentaires. Et ensuite, il faudra aller au-delà. Est-ce qu'on ira à 4,5, 4,6, 4,4? On verra, ça fait partie des discussions.
Vous maintenez l'objectif de repasser sous les 5%.
Alors, 5% en 2026, et c'est essentiel, c'est même presque plus important que tout, 3% en 2029.
Cet objectif, cette deadline, cette trajectoire, vous la maintenez ce matin, Roland Lescure?
Il est maintenu, je vais vous dire une chose, les élections présidentielles arrivent, ça se sent, et ben j'espère que tous les candidats seront interrogés, comme vous les aurez face à vous, sur cet objectif, parce que on fait pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit, on fait ça pour stabiliser la dette publique de la France, il est temps qu'on s'y mette.
Roland Lescure, il est 8h39, ça fait 39 minutes que le guichet de demande des aides a ouvert. Combien de Français sont concernés? Est-ce que vous vous attendez à ce que tout le monde, tous ceux qui peuvent y avoir droit, la demande?
Oui, alors en partie grâce à vous, c'est-à-dire qu'il faut faire de la communication sur ce dispositif. Hier soir, j'ai signé le décret qui double l'aide, donc on passe de 50 à 100 euros. On l'avait annoncé la semaine dernière, c'est disponible depuis hier. Le guichet a ouvert, vous l'avez dit, à 8h. J'ai été vérifié, comme sans doute un certain nombre d'entre nous, ça fonctionne. On s'attendait à un afflux de demandes, on l'aura sans doute, mais ça fonctionne. Donc vous avez, il faut avoir votre carte grise, votre avis d'impôt. Vous allez sur le site, vous cliquez aide au carburant, c'est le premier site qui arrive sur les modèles de recherche qu'on connaît. Vous devez entrer votre numéro fiscal, vous devez entrer votre numéro de carte grise, votre plaque d'immatriculation, une déclaration sur l'honneur. On fait confiance sur le fait que vous faites plus
de 1000 km. On fait confiance, mais on contrôle derrière.
on aura sans doute des contrôles.
Ces petits tickets pendant 5 ans. Hein.
Non mais
c'est important que tout le monde le sache.
Oui, mais enfin, franchement, là encore, je crois à la responsabilité individuelle. On fait face à un choc. Quelqu'un qui ferait 15 km par an et qui dirait « je vais aller chercher l'aide kilométrique », franchement, c'est pas au niveau. Donc oui, on contrôlera, mais on s'attend surtout à ce que les gens soient honnêtes et qui, effectivement, sur l'honneur, déclarent 8000 km par an au moins.
Ils toucheront l'argent quand? Si on remplit...
Dans les 10 jours.
Dans les 10 jours.
Donc dans les 10 jours qui suivent votre dépôt. Si vous déposez dans 10 jours, ce sera dans 20 jours.
Donc si on remplit son dossier aujourd'hui, qu'on est éligible, dans 10 jours...
Directement sur votre compte bancaire, par virement.
Roland Lescure, ça va durer combien de temps ce guichet? C'était 2 mois, c'est ça?
Alors, on l'ouvre pour 2 mois. Évidemment, si on sent qu'au bout de 2 mois, les 3 millions, vous me posez la question, 3 millions à peu près de Français qui ont accès, n'ont pas encore tous déclaré et qu'il faut prolonger, on le prolongera. L'idée, c'est
vous
de dire...
Vous ne vous interdisez pas de prolonger...
Le guichet.
Le guichet.
Pas de problème.
Roland Lescure, est-ce qu'on peut espérer une baisse du prix du carburant ou est-ce qu'il faut s'habituer à ce que l'essence soit chère?
Je pense qu'on a eu l'occasion de le dire, et le président de la République a tenu un événement hier important pour le symboliser. Il faut, j'allais dire, profiter de cette crise pour continuer à électrifier la France, parce que ces crises-là, en tout cas, elles se multiplient. On a eu l'Ukraine, on a aujourd'hui l'Iran, on en aura d'autres demain. Dépendre de production d'hydrocarbures qui viennent de l'étranger, c'est des menottes qui nous empêchent d'avancer. Il faut qu'on avance. On est aujourd'hui capable de produire l'électricité en France. On est capable de produire des pompes à chaleur. On est capable de produire des voitures électriques. Les Françaises et Français sont en train de prendre le virage. C'est le cas de le dire. On est à 30% de voitures électriques vendues. 5 voitures les mieux vendues électriques en France sont faites en Europe. La première, la R5, est faite en France. Il faut engager pleinement. Et je sens que tout le monde est prêt dans cette révolution. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui à 2,15 sur le diesel, on est un peu au-dessus de 2 sur l'essence, on redescendra peut-être à 90, 180.
Mais pas
globalement,
les prix,
je ne pense pas, parce que cette dépendance aujourd'hui, on voit bien qu'elle nous coûte, parce que la prime géopolitique, le risque, il va pas disparaître du jour au lendemain, même si, ce que j'espère, on ouvre le détroit d'Hormuz dans les semaines qui viennent, ça prendra du temps avant que les...
Donc
super...
il faut s'y habituer, il faut en tirer les conséquences.
Il faut s'adapter. C'est pas s'y habituer au sens où on se ferait une raison. Et on dirait, tant pis, on va vivre avec. Non, dans les années 70, on a transformé la France en profondeur. Il faut qu'on fasse la même chose cette fois-ci. On y est prêt.
Vous disiez qu'hier, effectivement, tous les acteurs de l'électrification, les acteurs des pompes à chaleur, de tous ces métiers-là étaient rassemblés. Clim ou pas clim?
Clim, les pompes à chaleur, ça existe en 2 modèles.
On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque devenu une question politique. Marine Le Pen, elle appelle un grand plan de climatisation.
Non, mais
les écolos disent c'est pas bien. Qui croire?
Non, mais, alors, la clim Marine ou la... Le Pen qui appelle à un grand plan sur la clim, qui nous censure sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vise à électrifier la France, qui passe son temps à nous demander une baisse des impôts sur l'essence et qui par ailleurs veut financer les clims. Gouverner, c'est choisir des priorités. Nous, on a choisi la priorité qui est l'électrification. Et on aura 1 million producteurs s'y sont engagés hier, de pompes à chaleur fabriquées en France d'ici 2035, pour la plupart sont réversibles et donc permettent effectivement
de rafraîchir l'été.
Chaud en hiver et frais en été. Donc ça doit pas être un sujet.
En tout cas, la clim, pour vous, il faut pas s'y opposer.
Mais il faut pas surtout politiser tous les débats. On adore, on est un peuple politique. Mais il y a un moment, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse parce que c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, ceux qui s'y opposent, parce qu'ils continuent à vouloir financer des États qui produisent du pétrole d'un côté, parce qu'ils ont des avis un peu idéologiques sur ce que les Français et les Françaises devraient faire ou ne devraient pas faire, franchement, c'est...
Notre réseau tient. Il n'y a pas de risque,
non,
soit de pénurie d'essence, soit de blackout d'électricité.
J'ai échangé avec les principaux fournisseurs de notre réseau. RTE, c'est les grandes lignes à haute tension. Enedis, c'est ce qui arrive chez vous. Évidemment, ça tient. Mais il va falloir investir. Là aussi, dans le plan d'électrification, il y a 100 milliards de chaque côté dans les 10 ans
qui viennent. Mais ça tient. Et par ailleurs, question aussi sur quand même le carburant, il n'y a pas de risque de pénurie. Monsieur Pouyanné lui-même avait évoqué que si ça durait, on pouvait avoir un risque de pénurie.
Et j'ai échangé avec lui et je pense qu'il s'est rassuré, du coup il m'a rassuré. On suit ça de très près, évidemment. Mais à ce stade, ce que je peux vous dire, et je l'ai dit à chaque fois, ni prophète de malheur, ni marchand de bonheur, pour les 2 mois qui viennent, on est tranquille, à la fois sur diesel, essence, mais aussi le kérosène. Les départs en vacances vont bien se passer. partez en vacances. Vous pouvez rester en France si vous le souhaitez, mais les avions vont voler.
Roland Lescure, votre collègue à la justice, Gérald Darmanin, propose, je cite, un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale parce que notre pays est arrivé à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation. Vous en pensez quoi, vous ?
Écoutez, d'abord, je pense que ce sujet est sérieux et qu'il ne se réglera pas avec des solutions apparemment simple, du type moratoire ou référendum. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur ce sujet. Moi, j'ai toujours dit, et c'est le gouvernement qui vous parle aujourd'hui, que l'immigration légale, on doit la favoriser. L'immigration illégale, on doit être très ferme. Moi, j'ai un souvenir de Gérald Darmanin qui disait, faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Mais je suis d'accord avec le Gérald Darmanin qui disait ça. Là, j'ai l'impression
vous êtes
qu'avec
moins
sa
d'accord.
proposition,
vous êtes
il est méchant
d'accord.
avec les gentils. Ah. Ceux qui travaillent en France, ceux qui s'intègrent, ceux qui font qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les usines, dans les EHPAD, font que la France continue à tourner, il faut les accueillir avec, je dirais, une certaine forme d'exigence vis-à-vis des valeurs de la France, vis-à-vis de notre capacité à nous intégrer. Mais c'est des gens qui participent à la France aujourd'hui, qu'il faut continuer à intégrer.
Donc vous seriez
l'immigration
moins,
illégale, c'est non.
Vous seriez moins Gérald Darmanin avec son moratoire de 3 ans sur l'immigration légale et plus Premier ministre espagnol qui veut légaliser tous ceux qui travaillent.
Non, moi je suis Premier ministre français. Je suis Laurent Nunes.
Vous n'êtes pas encore Premier ministre, je crois. Mais
non, mais ce que je veux dire, c'est que non. Puis je ne souhaite pas l'être. Mais quand vous me dites choisir entre l'un et l'autre, oui. Moi je choisis Sébastien Lecornu, je choisis Laurent Nunes, je choisis le gouvernement auquel appartient d'ailleurs
vous
Gérald Darmanin.
Vous choisissez Gabriel Attal aussi, j'imagine. Non, c'est lui votre candidat.
C'est le candidat naturel du parti auquel j'appartiens, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais sur l'immigration, aujourd'hui, nous on met en place des politiques qui sont à la fois extrêmement fermes sur l'illégal, c'est important, mais qui considèrent que l'immigration légale, l'immigration de travail, ça fait partie des chances de la France. Moi, j'ai été immigré moi-même au Canada, je pense que j'ai pu contribuer à un pays qui se développait. Je souhaite que les gens qui viennent en France pour choisir la France puissent aussi contribuer à son développement.
Donc le moratoire, c'est non. Merci beaucoup, Roland Lescure, merci d'avoir à répondu à mes questions ce matin. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, vous continuez à le dire, la France résiste. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité ce matin. Arnaud Montebourg, vous vouliez réagir, bonjour.
Ah, salut la Pauline.
Salut toi.
Hey. Chapeau la Malherbe, ça c'est une bosseuse. Hein, elle n'a pas le temps de traîner, d'aller voir les matchs à Roland. Du coup, c'est Roland qui vient à elle.
C'est ça.
Hein, voilà. Et oui, parce que, tu sais, le gars Lescure, c'est un collègue. On a dirigé la même boîte, Bercy. À Pau, avec toi aussi, on est des collègues. Hein, aujourd'hui, on bosse dans la même boutique. BFM, voilà. T'as vu comment je suis arrivé à BFM, moi, en star. Hein, carrément, avec mon émission à mon nom, Made in Montebourg. Alors, je vais vous expliquer pourquoi qu'elle cartonne mon émission. C'est parce que c'est un concept totalement original. C'est un gars, Bibi, qui reçoit d'autres gars pour débattre avec eux. Hein, ouais. Et ça fait la différence.
Ah bah c'est sûr, animateur télé, bon donc pour vous c'est nouveau.
Bah oui, tu vois, télévision, économie, miel, glace, amandes, tu vois. Je suis une sorte de touche à tout, tu vois. Une sorte de Bruel, mais sans les mains. Si je devais me résumer en une phrase, même si c'est difficile de me résumer en une phrase tellement le spectre est large, tu vois. Cette phrase, c'est plus une maxime, et chaque matin je me répète cette phrase, je me dis, tu sais Arnaud, c'est pas parce que t'es excellent nulle part que ça doit t'empêcher d'être à l'aise partout.
Oui, c'est une belle devise. C'est quoi votre solution là pour faire face à la crise pétrolière?
La solution, c'est faut être agile. Tu vois, agile, faut être comme un félin,
comme un chat.
Voilà, comme un chat dans une piscine, tu vois.
Ah, oui,
hein, comme un escargot au milieu des graviers, comme une tortue au galop dans les cailloux. Hein. Je te donne un exemple, une solution toute bête. Hein. Comme ça, au débeauté. Les Français se plaignent du formulaire de 127 pages que j'ai là, tu vois, à remplir pour toucher l'aide aux gros rouleurs. Mais les 127 pages, tu les plies en deux, voire en quatre, et ça te fait un éventail.
Ah, mais oui,
tu vois, et du coup, t'as plus besoin d'acheter une clim ou un ventilo made in China. Et avec ce que t'as économisé, tu remplis ton réservoir à bord, tu caves, tu vois, hein, agile, je te dis, comme une baleine sur le sable, comme un scarabée sur le dos, comme un poisson dans l'arbre.
Ça fait rêver, merci Arnaud Montebourg. Roland Lescure est toujours avec nous. Roland Lescure, malgré les mauvais chiffres qui s'accumulent, vous persistez à dire que l'économie française résiste.
Écoutez, il me faut pas sombrer dans la sinistrose. Moi, je reste positif. Je suis monsieur, c'est moins grave que si c'était pire.
C'est bon, ça. Alors,
certes, c'est vrai que les chiffres à la pompe restent élevés, nous sommes d'accord. L'inflation bondit, les chiffres se creusent, les taux d'intérêt de la dette explosent et le chômage repart à la... le chômage repart à la hausse, mais les autres chiffres sont très bons. Hein, sont très bons grâce à l'action. Grâce à l'action du gouvernement, on observe une belle croissance des températures, une relance de la consommation de glace, que ce soit les Sunday Vanille, les Sunday Caramel, les Mr. Freeze, les glaces italiennes. Et d'après les chiffres de l'INSEE, j'en parlais d'ailleurs avec Manuel Lechiffre, on est à plus 127% sur les glaces à trois boules. S'il connaît en chiffres et en glace, monsieur Lechiffre, c'est un très bon expert, un très bon statisticien, c'est mieux qu'Emmanuel Edouard Leclerc. Attendez, il y a aussi les effets positifs la canicule sur notre système de retraite. Hein, le système de retraite, faut en parler avec toutes ces personnes âgées qui vont nous quitter. Tout ça, c'est très encourageant.
Non, c'est pas encourageant quand même que les seniors disparaissent. C'est la santé des seniors là dont on parle.
Mais écoutez, moi, je suis ministre, je suis pas ministre de la santé, je suis ministre de l'économie. On parle d'économie. L'activité repart à la hausse chez Roc Éclair, chez les pompes funèbres en général. Les carnets de commandes des marbriers se remplissent. Le chiffre d'affaires des fleuristes s'envole. Sans parler des logements que ça libère et des droits de succession que ça rapporte. J'ai presque envie de vous dire vivement la prochaine crise que je puisse revenir vous annoncer plein de bonnes nouvelles.
Merci Roland Lescure. Sans plus attendre, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Et oui, ici Thibaut Texer, le journaliste à la voix tellement chaude qu'après chaque flash, il faut s'enduire les oreilles de Biafine. Allez, c'est parti pour les titres. Le ministère de l'économie précise que les joueurs français à Roland-Garros ne peuvent pas bénéficier de l'aide aux gros rouleurs. En effet, pour être éligible, un seul trajet domicile-travail n'est pas suffisant. Et puis, football. La mairie de Paris confirme qu'il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions. En revanche, en cas de défaite du PSG, il y aura bien une parade, mais à Marseille. Et j'y serai.
Merci. Pour faire le point sur les prestations françaises à Roland-Garros, justement, on retrouve tout de suite Yannick Noah. Bonjour Yannick.
Salut à tous, ça va? J'adore être à côté de mon brother Laurent Neumann. Ouais, on a le même âge avec Lolo. On a fait Woodstock ensemble. On était sous une tente avec Maxime Le Forestier, Michel Jonas. Oh, tu l'aurais vu, ça lui allait tellement bien, les dreadlocks. Je le revois encore, il fumait des joints gros comme des cônes de chantier. Ouais. Il planait à 15 000, mon Lolo, tu sais. Tu sais, à Pau, que Laurent Neumann, il a visité tout Katmandou sans bouger de son coussin. Ah, c'était chouette. Attends, pardon, excuse-moi. Apolline, je me mets à l'aise.
Ouais, les pieds sur la table, ouais.
Tu sais, pour le face-à-face, tu devrais enlever tes chaussures, Apolline.
Ah ouais. C'est vrai, j'ai jamais...
Ben ouais, c'est non. Comme ça qu'on sent mieux connecté à la Terre. Qu'elle soit battue ou pas.
Je penserais, c'est sympa, c'est une bonne idée. Sinon, bon, parlez-moi quand même des performances françaises à Roland-Garros, Yannick Noah.
Tu sais, Apo, quand t'es français et que tu joues à Roland, à la maison, t'as la pression. Du coup, je pense qu'avant les matchs, faut savoir se reconnecter avec son moi intérieur. Tu vois.
C'est ça le problème.
En écoutant, par exemple, des disques de pluie dans la forêt, avec un bâton creux rempli de gravier, tu vois. Le mieux, c'est aussi de brûler de l'encens. Tu vois, c'est un truc marocain vendu sous forme de résine. C'est très apaisant. Sinon, t'as aussi les tisanes ayurvédiques au CBD, ça marche très bien.
Vous êtes vraiment sûr que ça va les aider, nos joueurs français, à gagner les matchs, Yannick, hein, franchement?
Non, ils continueront de paumer, mais c'est pas grave parce qu'ils en auront plus rien à foutre. Désolé, faut que je te laisse à peau, j'ai trop besoin d'aller faire un câlin à un arbre. Tu viens, mon Laurent. Tu mets non, Laurent, viens comme ça, remets pas ton froc, ça. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais Alain, mais t'as Marshall qui est en train de se déchausser pour faire le sommaire des grandes gueules pieds nus. Il est trop génial, ce mec. Regarde-le comme il est facile. Il met même pas d'herbe dans ses feuilles pour parler des gros rouleurs.
Merci, Nicolas. Demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Il est là et il n'est pas pieds nus. Alain Marshall.
Merci, Nicolas. Effectivement, les gros rouleurs. Est-ce que vous allez demander votre chèque de 100 euros si vous faites partie des 3 millions d'automobilistes? On va passer les critères en revue et vous allez réagir, bien sûr, au 32-16. Marine Le Pen qui veut que la France déploie un grand plan de climatisation. On en discutera. Raphaël Glucksmann qui se donne 3 mois pour décider s'il se présente à la présidentielle. 3 mois pour convaincre et espérer. Est-ce que vous êtes dans le camp de Raphaël Glucksmann? C'est au 32-16 que ça se passe.